Et un, et deux, et un, deux, trois.
Fais du vélo, fais du vélo. Tu vas te faufiler partout et doubler toutes les autos. Fais du vélo, fais du vélo. Tu n'auras plus, non jamais plus, jamais les nerfs à fleur de peau. Fais du vélo, fais du vélo. Tu iras plus vite et tu seras heureux comme un poisson dans l'eau. Fais du vélo, fais du vélo. Tu n'auras plus jamais le moral à zéro.
Bonjour, bienvenue dans ce cyclocast numéro 27. Je suis Grincheux et avec moi nous avons
Prokylus
et Warthog
et Pamogor qui a décidé d'aller se balader. Au menu ce soir, donc c'est moi qui vais vous faire la présentation. Nous avons un rétropédalage, des news et nous allons chacun vous faire un petit dossier sur nos spécialités. Qui nous fait du bilan sécurité routière, qui nous fait de l'historique mécanique et qui nous fait des conseils de roulage en hiver.
Eh ben moi je vais m'occuper.
Il y en a qui picolent là.
Oh, on est deux, hein, mais je te rappelle que lui c'est de l'eau, moi c'est du
pire. Ah mais arrête, ils le savent pas.
Moi je vais vous parler un petit peu donc d'évolution de la technologie.
Oula.
Je vous parlerai très exactement de
du vélo Bluetooth.
Exactement. Non, je vous parlerai très exactement de l'apparition des potences à headset qui ont peu à peu remplacé.
On voit ça tout à l'heure.
Voilà.
Alors, je crois qu'il y a que moi dans les news et les rétropédalages et compagnie. Donc, comme d'habitude, j'ai rien bossé. Donc, je commence par un rétropédalage. Donc, dans l'épisode 9 de janvier 2015.
Ah oui, non, c'est de l'archéologie, ça.
C'est l'archéologie. Premier épisode. T'étais là dans cet épisode parce que c'était là où on parlait.
Non, je crois pas, non.
Parce que c'était l'épisode où on parlait de la visite au musée de.
Je suis arrivé à celui d'après.
T'es arrivé à celui d'après, mais c'était voilà, juste avant que t'arrives.
C'est encore puceau du cyclocast.
Donc dans cet épisode, je vous parlais du Magnic Light, donc un éclairage par champ magnétique. Une sorte de dynamo qui fonctionne justement avec le passage de la génération du champ magnétique de la piste. Non, pas tout à fait, parce que là, ça utilise la piste de freinage en aluminium des jantes pour pouvoir justement alimenter les phares.
Mm-hmm.
La nouveauté, c'est qu'ils viennent de lancer un crowdfunding pour une évolution de leur solution.
Ah, ça existait déjà.
Ça existait déjà, puisque j'en ai parlé il y a 3 ans. Je me suis fait plus ou moins pas lyncher mais conspuer sur Facebook quand j'ai dit que bah ouais mais c'était pas nouveau le truc qui venait de pourquoi est-ce qu'ils lançaient un crowdfunding. Bon, les mecs lancent quand même un crowdfunding d'1 million de dollars, hein.
Ah ouais, bon joli, quoi, ouais, pour une dynamo.
Ouais. Non, c'est quand même pas, c'est pas le prix du ticket pour avoir
ta dynamo. 1 million de dollars la dynamo.
Donc c'est une version qui est largement évoluée apparemment. C'est pas juste miniaturisé, ils ont amélioré le truc et ça se fixe sur les patins de frein carrément maintenant.
Et quand on a des disques,
ah bah
tu l'as dans l'os.
Tu mets un moyeu dynamo et tu fais pas chier.
On va chercher une Shutter Precision. Allez,
parti. Donc voilà, c'est à voir.
On
alors
peut freiner toujours.
On peut toujours freiner. Oui, ça se met pas à la place du patin de frein.
D'accord. Hein, j'avais un petit peu peur quand même.
C'est marrant, j'étais en train de me dire ah super, je vais pouvoir le prendre pour madame. Oh. Et puis je viens de me rappeler que j'ai mis un moyeu alternateur.
Bah voilà, tu vois.
Donc si j'ai bien compris, en fait, tu remplaces ton support de patin et tu remets tes cartouches dedans.
D'accord.
Mm-hmm.
D'accord. Donc le truc est toujours à proximité de la jante, mm-hmm, puisque si tes patins sont correctement réglés, c'est à proximité de la jante.
Mm-hmm. Est-ce que ça éclaire plus fort quand tu freines du coup? Ah bah non, tu vas ce que tu vas moins vite.
Alors a priori, tu peux le connecter en Bluetooth, machin, et prévoyait d'avoir des applications pour pouvoir avec ton téléphone faire des clignotants. Donc ça va être super pratique, ça. Tu vois, ou je ne sais quoi.
Non, mais ce qui est bien avec le vélo, c'est que ça s'est resté simple.
Exactement. Non, dans le fonctionnement de base, c'est un support qui se met donc sur les patins. Donc, t'as des éclairages qui,
tu peux en avoir
un de chaque côté qui marche tout le temps, qui font pas de frottement et qui ont une résistance relativement faible.
Ouais.
Parce que malgré tout, y a pas de miracle, hein. Si tu veux produire de l'énergie, il faut quand même l'appuyer quelque part.
5 watts par roue, si tu veux, sur le on s'en fout pas.
Oui, voilà.
Ça va tout dépendre. En fait, en l'occurrence, bon, désolé, mon addiction à la mécanique est de pire en pire. Et du coup, je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'il y a beaucoup de jantes dites aluminium qui ont malgré tout une piste de freinage en acier. Ça, c'est une des choses. C'est un peu con, mais j'ai pris un aimant.
Ouais, mais c'est collé par-dessus, en fait.
C'est ça, c'est emboîté de force ou quelque chose dans ce genre-là, quoi. Et je me suis rendu compte, on a monté un aimant, c'est de l'acier, pourtant c'est bien une jante alu. Donc, il y a de l'acier, donc ça peut générer un champ magnétique qui va effectivement générer pas mal d'énergie. Et quand bien même, il n'y aurait pas de piste de freinage acier, même l'aluminium génère un champ, alors pas un champ magnétique, mais un champ diamagnétique.
Oui, alors là, moi je ne suis pas rentré dans les détails techniques.
C'est l'aluminium, il peut freiner des aimants. C'est possible. Ça se voit avec les aimants néodymes.
Ouais, bah voilà, ça doit être ça qui est.
Je pense que c'est ça.
Ouais. C'est ça qui est utilisé, oui. Voilà. Donc voilà, Magnetic Light lance un crowdfunding pour une évolution de leur frein. Sur les vidéos de démo, ça éclaire bien.
Pardon, je suis un peu à la masse. Pourquoi je disais ça non, tout ça pour dire qu'en fait, si c'est la piste de freinage métal acier qui génère un champ magnétique, effectivement, ça a pas mal freiné. Si c'est une jante diamagnétique, si c'est un champ diamagnétique, ça va être peanuts en fait. C'est vraiment très peu. Voilà.
Et si t'as des jantes en carbone, et ben tu
dois faire ton frein à pile.
C'est juste conducteur le carbone. C'est très bon conducteur. Remarque, il y a peut-être des. Va savoir. À voir.
Et quand t'as des jantes avec la bobine dans la jante pour faire le moteur.
Et quand t'as des jantes en plastique à bâton, comment tu fais?
Comme le vélo Volvo.
Ouais.
Le vieux vélo Volvo. Le vieux Sud.
Ça merde, qu'est-ce qu'il va devenir ce vélo?
Je sais pas.
Ah, je sais pas. Peut-être y finir à la benne. Oui, alors en fait, on a parlé plusieurs fois de ce
petit aparté parce que
on en a parlé plusieurs fois de ce vélo Volvo recycleur, donc
le recycleur maintenant,
dont on a parlé avec Guillaume Ruzac, c'est ça. On en avait parlé de cet atelier et en fait. Il a malheureusement fermé en octobre dernier. Et en fait il y avait un super vélo Volvo qui était suspendu dans la salle, un
alors
vieux
super
machin.
Il y avait un vélo Volvo
super vintage et super
il
kitsch,
était unique en son genre,
voilà,
ouais, tout en on aurait dit une BX,
voilà,
vous voyez, de profil
ça, voilà, de près de
la même couleur,
non, on aurait dit le prototype d'une BX.
Oui, voilà, le prototype d'une BX, exactement, vous voyez.
Avec encore plus de avec encore plus de plastique que dans une BX.
Plastique partout, ronce de
beige.
Ouais. Beige, mais beige.
Sable,
ouais, il avait été comme une vieille unité centrale des années 90, qui aurait vieilli au soleil, vous voyez. Voilà. Et on l'a jamais vu rouler. Je pense qu'il vole, en fait, parce qu'il est pour ça. Il roule pas, il vole.
Tu te souviens où était situé le recycleur?
Oui.
Dans les pentes.
Oui.
T'as envie d'essayer de rouler avec ça et de descendre les pentes avec ça?
On peut les monter.
Mais à un moment, il va falloir descendre.
Oui, mais ça, c'est toi qui t'en occupe.
Non.
C'est pas toi qui dis les freins, c'est pour les lâches.
Il y a des freins en plastique.
Les freins, je pense, ça doit être des plaquettes en liège, est-ce comme que... pour le carbone.
Des plaquettes comme les bouchons de vin?
Non, ouais, des patins, ouais. J'ai dit plaquettes, pardon, c'est des patins. Ça doit être des patins, liège.
Ah non, mais que ce soit des patins, ça me rassure pas plus, c'est du liège, quoi.
Ouais, c'est du liège, oui.
Ouais, okay.
Mais figure-toi que sur les jantes en carbone, c'est du liège.
Bon, ceci dit, les BX, ça freinait pas bien, donc.
Voilà. Mais c'était suspendu, alors que celui-là, il est pas suspendu.
Bon, on continue les news, là, parce que...
Ouais, allons-y.
Merci Grincheux de faire du SAV de news il y a 3 ans, du coup.
C'est le concept du rétropédalage.
Non, c'est un rétropédale sévère, là. C'est... Ouais.
Alors, qu'est-ce que j'avais noté comme news il y a 3 mois? La police de Bruxelles piège les voleurs de vélos. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour piéger les voleurs de vélos?
Ah oui, j'ai vu ça. Ils ont fait un vélo avec un tracker intégré.
Ils ont mis un tracker GPS, oui.
Ils l'ont attaché avec une ficelle et un petit panneau volez-moi et ils ont suivi le tracker.
Non, ils ont...
Ou alors, ils ont mis un cornet de frites dans... Non, c'est pas bien.
Ça suffit, là, les poncifs. Non, j'ai vu des ricains qui avaient scié des cadres.
Oui.
Qui a mis un tube dedans et
oui.
Le vélo se déglingue.
Oui. Ou qu'il les attache.
Ou qu'il les attache.
Discrètement avec un truc.
Avec un câble.
Qui se mange.
Il se met une boîte, ouais.
C'est mal, mais ça fait tellement de bien de voir ça. Mais c'est mal, mais c'est bien.
Donc oui.
Donc ils ont mis des vélos à pas dans des quartiers un peu chauds de Bruxelles, là où il y avait beaucoup de vols. Mais attends, je retrouve plus que ça, parce que oui, ouais, ouais, ils sont juste, c'est juste un tracker GPS et le système fonctionne parce que donc avec ce système de tracker GPS, ils vont récupérer les voleurs de vélo. Ils ont la légitimité de faire une descente chez les voleurs, donc de désinguer les réseaux de trafic de vélo
et chez les receveurs aussi.
Et donc les receveurs.
Ils ont inventé le Gobi Bike en fait.
Un peu, ouais. Et en un an, les communes qui participent au projet ont vu les vols de vélo diminuer de 40%.
D'accord.
Voilà. C'est toujours plus efficace que le Magnavolt. Pour ceux qui ont vu Robocop.
Alors, j'ai une news
suivante.
Je la garde pour plus tard celle-là.
Oh là là.
Alors,
là,
je vais regarder.
Carte chance en plus.
Ouais ouais ouais. Non, c'est une news qui est toute mignonne que je garde pour la fin.
D'accord.
La nouvelle prime VAE va sortir au mois de février.
Mm-hmm. Oui, parce que celle de l'année dernière finit le 31.
Voilà. Et de ce que j'ai compris, j'ai eu un diagonal. J'ai appris avec Captain Web à faire des news, donc voilà.
Oui, donc en fait, comment ça braque ? Ok, c'est noté.
Non, si j'ai bien compris, en gros, la nouvelle prime délivrée par l'État intervient en complément d'une prime locale.
Seulement, et puis c'est réservé aux personnes qui sont demandeurs d'emploi, et tata.
Plus un certain nombre.
Il faut être à zéro en impôt sur le revenu.
Plus un certain nombre de conditions. Mais de toute façon, si tu n'as pas de prime locale,
oui,
tu ne peux pas avoir la prime d'État.
Voilà.
Donc toutes les communes qui n'ont plus de prime de VAE,
voilà.
Et donc Nicolas Fréry de Troyes qui disait, mais moi je suis en train de faire du lobbying auprès de la municipalité pour qu'il fasse une prime VAE, même de 1 euro, même une prime
symbolique. C'est ce que ça veut dire, tu l'as fait de 1 euro, ils l'ont dans l'os, quoi.
Pour pouvoir ouvrir les droits à la prime à la prime d'État. Et je pense que il y a moyen que ça marche.
C'est vrai que quand tu regardes les résultats de la prime VAE telle qu'on l'a connue en 2017, la majorité des bénéficiaires, 65%, 67% je crois, rentraient dans une catégorie de gens aisés, qui avaient des bons revenus et qui n'avaient pas besoin de cette prime pour acheter un vélo électrique.
Tout à fait.
Le but n'était pas d'aider financièrement les gens,
mais
le
d'inciter,
but était d'inciter.
D'être un déclencheur, voilà,
d'être
tout à fait.
Un déclencheur. Je vous rappelle que si vous achetez une voiture électrique en 2018 en France, vous aurez 6 000 euros de prime. Hein.
Oh mais c'est un scandale, c'était 10 000 en 2017.
Voilà. Donc, je pense que... Après, je comprends de dire... C'est compréhensible de dire on ne peut pas aider que des gens aisés, ok.
Oui.
Mettons des conditions de revenus, ok. Mais là, du coup, enfin,
la question est de savoir si on veut faire du social ou si on veut faire de l'incitation.
Extrêmement limité, voilà. Oui. Le but n'est pas forcément, en effet, de dire les pauvres faites du vélo. Le but, c'est de dire faites du vélo.
Voilà.
Peu importe.
Le principe.
Et puis un VAE aujourd'hui, si tu veux un VAE qui va rouler tous les jours. Le ticket d'entrée...
C'est 2000 balles, quoi.
Oui, voilà, c'est ça, c'est 2000 balles. Donc, même avec une prime de 200 euros, faut les sortir, les 1800 euros qui restent.
On est bien d'accord. Hein.
Après, les modèles de réplication des pratiques dans notre société actuelle, sans rentrer dans des débats ou des machins, on sait que généralement, la meilleure manière de diffuser quelque chose à une population... Merci. C'est de mettre d'abord les personnes des classes supérieures et par effet de mimétisme, on va avoir les classes en dessous qui vont vouloir faire la même chose. Donc c'est pas complètement incohérent.
Quelle bande de suiveurs, ces pauvres.
C'est terrible, mais c'est ce qui a été noté pour la.
C'était démontré le ruissellement, ça marche pas.
Je voulais pas prononcer ce mot. Alors ça, vous le mettez de côté.
On y a tous pensé.
Ça, on n'y touche pas. Mais c'est souvent le cas. C'est-à-dire que quand on voit les gens aisés, bon, c'est plus des questions de mode là-dedans, mais ça marche pour plusieurs choses. On voit que quand des classes supérieures se mettent à certaines pratiques ou à certains, voilà, derrière on a les classes qui sont en dessous qui vont commencer à se mettre.
Le vélo, c'était un truc de bourgeois au début, on s'appelait une blinde, une vraie bicyclette.
Exactement.
Avant d'être
s'est démocratisé.
Un moyen de transport ouvrier.
Voilà. Mais même dans les années 50, c'était encore un bien de luxe, hein, le vélo.
Ouais, ça a commencé dans les années 30, la démocratisation du vélo.
Mais tu payais des taxes pour produit de luxe sur un vélo jusque dans les années 50.
Oui, oui, non, mais oui.
Voilà.
Oui.
Et après, quand les riches se sont mis à acheter des bagnoles en masse, derrière, les riches ont acheté les plus humbles ont acheté des voitures à leur tour. Ça marche toujours comme ça. Donc c'est pas complètement incohérent de faire en sorte que les personnes qui aient du...
Non, puis si le but... Alors, en fait, voilà, la question c'est, est-ce qu'on veut que les gens ils achètent des vélos? Auquel cas, oui, on fait des trucs pour les moins aisés, ou est-ce qu'on veut que les gens y fassent du vélo, et que ça devienne un moyen de transport? Auquel cas, on s'en fout du revenu des gens. Le but, c'est que ça remplace des voitures.
C'est ça.
Mais dans ce cas-là, il faut être cohérent et inciter également à faire des primes d'achat au
vélo
sec.
Pour le vélo à moyen,
on est d'accord. Bien. Voilà.
Après, bon, après 200 balles de primes sur un vélo à 300 chez Decat...
Oui, mais comme c'était à un moment la prime qu'il y avait à une époque, qui était, c'était quoi? C'était 10% de la valeur plafonnée à 2000 euros, un truc comme, à 200 euros.
Ben, c'est pas complètement.
Et voilà. Si tu veux acheter un vélo bas de gamme, t'auras qu'une partie de la prime parce que,
plafonné parce que,
l'autre moyen de faire ça, c'est pas de faire une prime à l'achat, mais c'est de faire une vraie IKV.
Ah, c'est, oui. Voilà. Tout à fait.
Bon, on revient encore une fois sur le fait qu'il faut calculer et que c'est compliqué, mais que là, on assiste à une nouvelle manière de...
De faire du greenwashing.
Bah, le but, ça a été de dire, oui, la prime AVE... Parce que du coup, quand la fin était annoncée, beaucoup
avaient
gueulé, à juste titre, c'est un mécanisme intéressant. Le gouvernement a annoncé qu'il y aurait de nouveau une prime AVE. Là, clairement, c'est pas satisfaisant. En tout cas... ça n'est pas intéressant pour l'incitation à avoir un vélo pour ses déplacements quotidiens. C'est dommage.
Voilà.
Oui, voilà, bon. C'était pour parler de ça, parce que c'est quand même d'actualité.
Le français rougne.
Alors, pour ma news suivante, je vais être totalement d'actualité, puisque c'est un truc qui est arrivé hier matin dans Télématin.
Youpi matin,
doit être matinal, j'ai mal.
Excusez-moi. Qu'est-ce que tu fous debout le matin d'abord?
Moi, je l'ai appris par Twitter l'après-midi. Hein.
Pareil.
Le matin, je suis au radar pour préparer les gamins, ouais, et aller au boulot.
Bien sûr, je te voyais mal devant Télématin le matin.
Je n'ai jamais regardé Télématin. À part peut-être quand j'étais en déplacement à l'hôtel que j'allumais pour essayer de voir un flash info pendant que j'étais en train de me préparer le matin dans la chambre d'hôtel.
Mm-hmm. Moi, depuis que William L'Energie est parti, c'est plus pareil.
Je l'ai appris.
Non, sérieux, j'en regardais, moi.
Je l'ai appris aujourd'hui que William L'Energie. L'Energie,
ouais.
Il est mort, William L'Energie ?
Non, il a juste pris sa retraite.
Ah oui, non, mais d'accord. Non, mais c'est normal, il a commencé la télé avec Toutankhamon 2, donc à un moment donné, il faut laisser la place.
Rond comme un ballon.
Moins vieux.
Jaune qu'un citron, c'est Pac-Man.
Donc, je sais pas comment il s'appelle.
Thierry Beccaro.
Thierry Beccaro a
le
fait un.
Motus.
Ouais. C'est lui maintenant qui présente, ouais.
Putain, le PAF a tellement changé.
Je savais même pas qui c'était avant de.
Non, mais Motus, tu connais quand même.
Mais toi, t'as pas regardé les émissions de Chômeur, en fait.
Non, mais j'ai pas la télé.
Mais ouais. Moi non plus, mais je regardais quand j'étais plus jeune,
tout
quoi.
Ça. Non, mais attends, ça fait 20 ans qu'il présente.
Oui, ok, alors, non, stop, on change pas de podcast. Hein.
En 6, enculé. Donc,
il a fait. Il a fait un reportage totalement putassier, putaclic, avec tous les poncifs que tu peux entendre sur le vélo.
Alors, moi, j'ai pas.
Résumé en 30 secondes.
J'ai vu Twitter prendre feu.
Ouais.
Mais je n'ai pas compris à la base quel était le sujet de ce reportage.
Tu veux voir le sujet? Tu veux voir le reportage?
Je veux qu'on m'explique.
Ouais, on fait une petite pause, de toute façon, on coupera l'enregistrement.
Ouais, je vais encore galérer au montage, c'est pas grave.
C'est pas grave.
Non, mais je le regarderai après, sinon, dites-moi rapidement.
Non, mais tu vas voir, ça vaut le coup.
C'est sur le vélo.
Je l'ai pas vu non plus, donc allez, on va.
Petit interlude où nous regardons le reportage de Télématin du 4 janvier 2018. Si vous ne savez pas de quoi il s'agit, ben, si c'est encore disponible, allez en faire autant, comme ça vous pourrez mieux comprendre la discussion qui va suivre.
Coucou, on est de retour.
Est-ce qu'on pourrait me rembourser ma redevance, s'il vous plaît?
Alors, tu sais quoi, t'es pas le premier à avoir dit ça.
Parce que, comment dirais-je,
payer. Ah, mais je suis content de ne pas avoir de télé, de ne pas payer de redevance pour ne pas subventionner ce genre de.
Malheureusement, maintenant qu'on a la télé pour la console, du coup, on est obligé de la payer.
Mais attends, après, il y a d'autres médias qui valent le coup. Hein. France Inter a des émissions très bien, mais
voilà.
Comment vous dire, à un moment donné, c'est pas du travail de journaliste. Enfin, après, ce que dit le type.
Emmanuel
Barbe, le délégué interministériel, ce qu'il dit, il a raison, c'est juste. Et ce que disait Proc tout à l'heure, c'est que ça doit s'appliquer à tout le monde.
C'est, voilà, c'est des conseils qui sont plutôt généraux.
On ne se sert pas de son téléphone. Les oreillettes sont interdites, au volant aussi. Voilà.
Moi, j'ai entendu beaucoup de personnes comparer Beccaro à un journaliste. J'aurais tendance à dire qu'il est au journaliste ce que les pigistes du supplément féminin sont aux journalistes du Dauphiné.
Oh
quoi.
Là là, le patriarcat fout la paix au supplément féminin.
Non, le supplément féminin, c'est justement, c'est une horreur. C'est plein de petites cases. Voilà, la femme doit être belle Esther, quoi.
Je suis navré. En effet, pendant le reportage, on voit moult infractions commises par des motorisés.
Voilà, donc sans que à aucun moment il n'en soit fait mention. Je comprends l'angoisse de certains face à l'augmentation du trafic cycliste, mais calmez-vous, les gars.
Moi, la phrase qui me révulse un peu, c'est d'entendre un délégué interministériel dire « les cyclistes sont largement responsables de leur sécurité ». Je suis pas d'accord là-dessus. Enfin, on va dire qu'ils sont responsables de leur sécurité, mais la plupart du temps, pas des blessures qui leur sont infligées, quoi.
Oui, je crois que c'est 30% de responsabilité des accidents pour les cyclistes.
C'est ça.
Tu nous en parleras après, mais
voilà.
Oui.
Tu nous en parles après. Mais voilà, ça entendre ça, je suis pas d'accord. Pourtant, je suis pas le premier à dire qu'il faut calmer un peu le jeu et qu'il y a des personnes qui abusent chez les cyclistes concernant ce qu'on dit sur l'automobile, etc. Mais non, c'est pas vrai. Il y a beaucoup d'automobilistes qui conduisent n'importe comment et qui du coup blessent des cyclistes. Quoi.
Bah après, on parle d'automobilistes, on parle de cyclistes. Moi, je pense qu'on a plus un problème d'éducation des adultes en France. Hein. C'est-à-dire
l'éducation
qu'on a
à la vie commune.
Des piétons qui font n'importe quoi, des cyclistes qui font n'importe quoi.
Tout le monde
des
fait n'importe quoi. Oui, le problème, c'est qu'un piéton ou un cycliste qui fait n'importe quoi ne va jamais aller écraser.
On est bien d'accord.
On a vu.
C'est aussi une notion de responsabilité.
Il n'y a pas si longtemps que ça. Donc un Rouennais Vélomagus qui s'est fait, rouler dessus littéralement, parce que le mec derrière en avait marre d'attendre et qu'il estimait qu'il n'allait pas assez vite.
Oui.
Et c'était un artisan visiblement. C'était une
camionnette.
Donc voilà.
Qui est
personne au même titre que moi qui cotise au RSI, qui est un indépendant quoi. Voilà.
Oui, non, mais on s'en fout, c'est quelqu'un...
C'est un gars...
C'est un être humain qui a pris la décision d'aller rouler sur quelqu'un d'autre, quoi. C'est...
Il a dit, lui,
quel que soit son activité professionnelle...
Et je vais lui rouler dessus.
Voilà.
Voilà.
C'est quoi le cheminement synaptique pour arriver jusqu'à là? Il n'y en a pas, en fait. Ah, voilà, c'est qu'en fait, il n'y a pas de...
Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on fait des barrières, alors que les barrières, elles n'ont pas lieu d'être, quoi. C'est que cyclistes, automobilistes, c'est des êtres humains.
Oui, non, mais on est bien d'accord, hein, ils ont des familles. Ils ont
parce qu'on sait très très bien que les artisans vont souvent te dire non, mais c'est moi je travaille. Bah oui, mais il y a d'autres mecs qui travaillent, qui travaillent à vélo aussi, et qui travaillent à pied.
Et puis c'est pas parce qu'on n'est pas en train de travailler à ce moment-là que
qu'on mérite moins. Si t'es moi quand je suis en RTT, je fais hyper gaffe parce que du coup comme je vais pas au travail, je suis dans la merde. Si
bah oui, carrément. Travail, quoi. Voilà, c'est ça.
Je sors pas de chez moi.
Voilà.
Voilà.
Et puis
c'est affligeant de voir ça sur un truc de grande antenne.
Oui, parce qu'en plus voilà. C'est là où je voulais en venir. Dédé, mets-moi la petite sœur. Ça passe le matin. Donc, c'est une émission généraliste j'allais dire d'information. C'est une
6h50.
Voilà, c'est une matinale.
Oui, mais c'est du 6h50. Ça, c'est pour les papis et les mamies. Hein.
D'accord. Non, mais voilà.
C'est pour les personnes qui se lèvent tôt. C'est, oui. Tout gérontophobie mise à part. Hein,
oui.
Les personnes qui se lèvent tôt.
Les personnes qui se lèvent tôt, ou t'as des familles qui allument la télé avec le réveil.
Donc des personnes âgées.
Ah oui, si, t'as les gens.
Sérieux ?
Bien sûr.
Peu importe.
La télé est allumée. Il y a quelqu'un dans la maison, la télé est allumée.
Ah.
Et donc t'as télé matin pendant le petit déj pour parce que c'est le rituel.
Quelle horreur.
Bref. Le truc, c'est que c'est pas un média spécialisé dans le cyclisme.
C'est pas automoto.
C'est pas automoto, c'est pas 40 milliards de...
C'est un média hyper généraliste. Et du coup, l'angle d'attaque, il est hyper, hyper biaisé.
Oui.
On est bien d'accord.
Oui, totalement. Ouais.
Carrément.
Voilà.
Moi, c'est les mots après l'article, les mots de Beccaro. Effectivement... On se demande si c'est un s'il a passé une certaine barrière et que du coup il commence à avoir peur de tout et de rien.
Voilà, est-ce que c'est est-ce qu'il est dans le clan des personnes âgées qui ont peur de
entre
de
guillemets
chez
entre
eux.
Guillemets parce que bien sûr il y a des personnes âgées qui n'ont pas du tout peur, hein, qu'on soit bien d'accord. On parle du, du cliché là. Est-ce que il essaie de faire de l'humour?
Bah, comme tu disais, voilà, on a l'impression qu'il est totalement dépassé par le sujet, qu'il essaie de faire de l'humour parce que ça fait bien.
Ou alors parce qu'il a rien à dire. Moi, j'ai l'impression qu'il sait pas quoi dire là-dessus.
Eh ben, quand on sait pas, on ferme sa gueule.
Voilà. Mais je pense qu'en fait, c'est ça. C'est que du coup, il savait pas trop quoi dire. Il a répercuté les paroles de Bartaba. Et puis
voilà, c'est
quoi.
Ça. Il a fait du café du commerce. Ouais. Oh là là, il y a plein de vélos.
Sur Twitter, il commence à avoir une réputation de patron de café. Hein. Tout le monde lui a dit que c'était de l'argument PMU. Hein.
Bon.
Je pense qu'il a pas été, il a pas été sourd. Hein. Si vous voulez aller plus loin, moi, ce que je vous invite à faire, une fois n'est pas coutume, c'est d'aller sur Twitter. C'est Julien.
Ouais, je l'ai retweeté.
On vous remettra le lien. Il a fait.
Oh non, il va falloir que je cherche encore.
Ouais. Il a fait une réponse point par point qui est très bien. Qui est très bien enseigné, très bien documenté.
Un travail presque de journaliste, tu veux dire?
Exactement.
Ouais, non,
il a, en plus, il a fait gratos, tu te rends compte?
Oh le con. Ouais. Je peux pas lui donner ma redevance du coup plutôt.
Bah ouais, faudrait. Oui. Voilà. Il a fait une réponse point par point, il a fait un droit de réponse.
Je l'ai retweeté, mais bon, dans le flow de tout ce que
propre,
je retweete, je peux.
Très respectueux. Il s'est juste planté sur le.
Jujugef. Jujugef.
Voilà. Il s'est juste planté sur le retweet de Beccaro, c'était pas du tout le bon compte, mais c'est pas grave. Voilà. Oui, c'était juste un compte amateur. Bon, voilà. Mais voilà. Super. Juju, super travail encore une fois.
Eh bien, merci Gracieux, c'était navrant. Suivant.
Alors, sujet totalement différent, je vais vous parler de Bridgestone.
Bridget Jones ?
Non, Bridgestone.
Ah merde.
Le pont de pierre.
Donc ce n'est pas la fille cachée de Bridget Jones et de Sharon Stone non plus. Le fabricant de pneus japonais. Qui étudie lui aussi les...
D'accord.
Oui, c'est japonais, oui.
Ouais, d'ailleurs, ils font des pneus qui sont nippons, nippons.
Oh, celle-là, elle est naze. Corbeau.
Je vous merde.
D'habitude, c'est moi qui devrais corbeau.
Comme quoi, hein, oh, donc, vite, on change tout.
Donc, Bridget Jones... Bridgestone s'intéresse aux pneus sans air, avec des roues à lamelles. Donc on a déjà vu des prototypes qui ressemblaient à ça. Et
j'ai la photo sous les yeux, on dirait un mixeur.
Oui, il y a un peu de ça.
Oh putain, c'est moche.
Shimano s'intéresse au mouvement perpétuel. Bridgestone s'intéresse
c'est un peu une de leurs activités. Mais,
oui.
Ouais. Mais donc voilà, là visiblement ils ont... Ils ont fait des études un peu plus poussées, mais par contre, ça veut dire que c'est toutes les roues complètes.
Oui, parce qu'en fait, alors vous le voyez pas là, mais en gros, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une espèce de jante à bâton,
en fait,
vous voyez, en plastoc.
Une roue de charrette.
Une petite roue de 20 pouces, 16-20 pouces.
Ouais, 16 pouces. 16.
Donc autour du moyeu. Après, il y a des lamelles.
Exactement, ouais, des lamelles qui sont coudées.
Qui
ressemblent à des démons de pneus.
Oui, un peu.
Ce qui est paradoxal, puisqu'il n'y a pas de...
Et puis après, il y a la bande de caoutchouc, le cerclage.
Une bande de roulant.
Le pneu, mais...
On peut tourner avec ça?
Oui, il n'y a pas de raison. Bon, par contre, ça t'oblige à avoir des disques.
Et
c'est vrai, il n'y a pas de piste de freinage. Ouais.
C'est ça, il y a fort à parier, ou du tambour, ou du roller brake.
Oui, enfin, voilà.
Et il y a fort à parier qu'en fait, c'est cette petite lamelle des montes pneus...
Bah, ça fait un effet suspension.
Et qu'elles aient un certain coefficient de déformation latérale pour pouvoir absorber la déformation dans les virages. Pour répondre à ta question.
Oui, ça me paraît très chelou.
Voilà, mais bon, comme je l'ai déjà dit, parce que ça fait quand même pas loin de 20 ans que tous les constructeurs de pneus nous promettent le pneu sans air et increvable.
J'ai vu qu'il y avait une flotte de vélos sans attache qui en utilisait.
Chine ?
Non, en France.
Ah, parce que moi, j'ai des collègues qui m'ont ramené des photos quand ils étaient en Chine.
Ouais, ben justement, c'est un truc chinois. C'est les Mobibike ? Non, c'est pas les Mobibike.
Je sais plus quelle marque.
Je crois que c'est à Rennes ou à Angers. Il y a
Qui ont des pneus pleins.
Non, c'est pas des pneus pleins, c'est ceux qui ont des trous, tu sais.
Tout. Des pneus pleins qui sont troués.
Exactement, ouais. Ouais, ouais. Et je sais pas ce que ça vaut en termes de rendement, mais je pense que c'est le seul.
Je sais plus. Je sais plus avec qui j'en avais discuté sur Twitter. Je crois que c'est. Je me demande si c'est pas Home Cinema 94 Bruno qui me disait qu'il avait roulé avec des pneus pleins pendant un temps, mais pas des pneus percés.
Mais plein de quoi?
C'est de la mousse.
La bière?
Non, ça c'est toi. et que bon, c'était pas si mal que ça. Bon, après, mais c'est aussi quand il était débutant en vélo taf, donc il est peut-être pas non plus.
J'arrive pas à me rendre compte en termes de.
J'aimerais bien, je serais curieux d'essayer.
Et de rendement et de sensation, ouais. Voilà. Qu'est-ce que ça donne.
Et après, au niveau performance et dans une conduite un peu plus.
Ah, je pense que ça
va pour du vélo de ville tranquille, voilà, pépère, je pense, parce que
du vélo de ville,
les contraintes latérales, voilà. Il va pas encaisser.
Bah, déjà, rien que là, avec la jante plus ramassée et l'espèce de.
Oui. Non, c'est la première fois que je vois des.
C'est super moche.
C'est la première fois que je vois un système qui est autant intégré dans la roue.
Oui, d'habitude, c'est juste un pneu, en effet.
Voilà. Et c'est donc généralement limité au VTT pour avoir une longueur de lamelle suffisante pour faire l'amorti du pneu.
J'avoue que je reste très très dubitatif sur ce genre de système. Voilà.
Je dubite aussi, fortement.
Je pense qu'en fait c'est simplement à l'usage, que c'est quelque chose qui va être trop compliqué, trop cher.
Mais voilà, comme je dis, ça fait quand même, ça fait 20 ans que tous les constructeurs de pneus nous promettent que dans 6 mois ça va être sur tous les véhicules.
Il y avait déjà des modèles, des tests de pneus pleins dans les années 70-80. Hein.
Non mais je parle pas des pneus pleins, je parle des concepts à lamelles qui vont justement faire l'amorti du pneu. Mmh. Ça fait au moins 20 ans que j'en vois en automobile, en moto.
Ouais.
Bon, à l'époque j'étais moins intéressé aux technologies des pneus de vélo, donc je ne sais pas. Bon, mais
c'est le trailer, hein. C'est être franc.
Après, les goûts et les couleurs, on va dire. Comme disait la mère Denis, les goûts et les couleurs, tout pareil goût, quoi.
Voilà.
Eh bien, merci Grincheux.
Et donc, je vais terminer avec ma dernière news mignonnette. Il y a un jeune parisien, enfin de région parisienne, qui a écrit une lettre à Anne Hidalgo pour lui demander de faire en sorte.
Oh, en plein et en délié. C'est mignon.
Donc, bon, je vais pas lire la lettre, je la posterai sur le billet. Donc, jeune Jolan de 9 ans. Qui,
on va pas dire du mal, il fait du taekwondo le moment.
Ouais.
Et qui dit qu'il aime se déplacer à vélo dans Paris pour aller notamment à ses entraînements de taekwondo, mais que il est très embêté parce qu'il y a beaucoup de Gécoum et que ça le met en danger, et il demande à Anne Hidalgo d'agir pas uniquement pour les grands en créant des infrastructures adaptées aux plus grands, mais en faisant en sorte que aussi toutes les infrastructures qu'il y a soient respectées pour que les plus petits puissent aussi faire
Et les gens sont méchants.
Je veux cette lettre, mais je veux la clair. Publier quoi. Ça tu l'envoies à Beccaro, tu dis voilà, c'est ça la réalité de. Et je veux dire face. Alors on a des bribes là, on a l'écran devant nous, on voit des bribes de phrases.
Non mais moi je suis en train de tout lire. Là il y a une phrase là, je vais vous le lire. Je suis obligé de doubler par la gauche en passant par la voie des voitures, sous-entendu parce que des voitures sont virées sur la piste cyclable, et si une voiture me frappe, je meurs. Très jeune, parce que je suis petit et qu'elle ne me voit pas. Voilà.
C'est tout simple, ça transpire de naïveté et de gentillesse, quoi. C'est pas mal, ça. Je pense qu'il n'y a pas grand monde, il faudrait être un sacré cynique et un sacré connard pour trouver quelque chose à redire à ça, quoi.
Voilà, donc ça, c'est pareil, c'est tout frais, ça date d'hier.
C'est effectivement
c'est
très mignon. Sorti.
Ça date pas d'hier, ça date du mois de juin, mais c'est sorti sur Twitter hier.
Il est pas frais ton poisson.
En fait, non, il est pas frais mon poisson.
Ans, le mot.
Bon, mais Bridgestone, ouais. Ça date du mois d'avril. Hein, mais c'était pas un 1er avril non plus.
D'accord.
Ah bah super. Donc voilà pour mes news.
J'aime bien, il a signé avec un petit smiley à côté de son.
C'est un petit smiley ou
c'est un petit bonhomme qui sourit.
Je pense qu'il a ça de pécho à Hidalgo. Mais...
Donc voilà pour mes news. Si vous avez rien d'autre à rajouter, je pense qu'on va passer au dossier.
Merci. Oui.
Qui se lance en premier?
Moi je veux bien. Je vais essayer de faire concis.
Ok, pas plus de 2h30.
Ça marche. Bicycle. Alors donc.
2h30 de potence, moi je me pends. Hein. Désolé. Ouais,
tu rigoles, j'ai cherché le terme potence parce que donc je me suis basé principalement sur un article en anglais et du coup il a fallu que je fasse des traductions et que je cherche, etc. Et j'ai découvert que STEM c'était la potence en anglais, oui. Et que il faut pas confondre avec JB qui est le JB de la potence.
Ah, oui, ah, oui. On pend les rascals du voilà. Far West.
Donc, on a l'habitude de dire, lorsqu'on parle de technologie vélo entre professionnels, qu'elle a autant progressé entre 1985 et 1995 qu'entre 1915 et 1985, la technologie. On va dire qu'en 1915, quasiment tout a été inventé, on a fait très peu de progrès, jusqu'en 85, où il y a une pratique qui a littéralement foutu le feu au monde du vélo et changé la technologie.
Le marketing.
Exactement. Non, qui se rend compte ? Non, le VTT. Entre 85 et 95.
Avant, on appelait ça simplement faire du vélo dans la boue.
Voilà.
Du vélo dans la boue. On se faisait engueuler. Après, on avait des excuses.
Donc entre 85 et 95, qu'est-ce qu'il y a eu ? Il y a eu, par exemple, les jantes à alu. Il y a eu l'indexation des vitesses. Les moyeux à cassette.
Les vitesses SIS.
voilà. Mais ça faisait clic déjà. Ouais. C'était une nouveauté. Et puis c'était au guidon, quoi. Avant, c'était sur le cadre. On a eu donc les moyeux à cassette aussi, qui sont apparus à cette époque-là.
Ah, c'est pas plus vieux que ça, les moyeux à cassette ?
Non. Ah, avant, c'était les roues libres à
visser. Avant, c'était les moyeux à Super 8.
Il est con. Puis après, ils sont arrivés le CD et, ouais, et le DVD. Voilà.
Putain, j'ai un moyeu Blu-ray, les gars. C'est un roue du pâté, 4K et tout.
qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ? Il y a eu... je vais en parler de toute façon, les fourches suspendues. Et
l'élastomère qui sert à rien.
Au début.
Et ouais. Puis dans beaucoup de vélos aujourd'hui avec des fourches suspendues. Bah, toujours.
Bref, on a dit qu'on parlait pas de carouf. Et il y a une parmi tout ça, il y a une amélioration, il y a une nouveauté technologique qui va apparaître et qui elle par contre va pas modifier des éléments qu'on avait qui sont apparus entre 15 et 85. Mais qui va modifier une pièce qui est là depuis le début, c'est la modification de la potence. Alors la potence, qu'est-ce que c'est ? C'est la pièce qui va relier la fourche par le dessus du cadre, hein. La fourche elle passe devant le cadre, dans le cadre, elle ressort par un système de roulement qui lui permet de tourner, et son extrémité est fixée à une tige qui elle-même est traversée par le guidon ou le cintre, c'est le machin qu'on tient avec les mains, quoi, la barre, et c'est ce qui va nous permettre de tourner. C'est une pièce de transmission de la direction entre le guidon et la fourche.
On peut mettre un volant à la place du guidon, mais c'est foireux.
Et ben pour le coup,
t'as jamais essayé ?
Si on mettait un guidon, on le mettrait très certainement à la place. J'ai dit un volant. Si on mettait un volant à la place du guidon...
On mettrait à la place de la potence, du coup.
On le mettrait à la place de la potence, oui. Tout à fait.
Oui, c'est ce qu'on avait fait avec mes cousins.
C'est des barjots.
C'est super casse-gueule,
j'imagine.
Et en dehors de toi, ils sont encore en vie
Ouais, ouais.
Ah ouais, comme quoi, hein.
Le mec, il vient du Minnesota, quoi. On va jouer au Bass Glass Ball, pour ceux qui connaissent How I Met Your Mother, quoi. Donc, c'est John Rader, junior, qui était VTTiste, il est texan. Son père, c'était un ancien coureur auto, et puis il avait un atelier bien équipé, et John Junior, a appris très tôt à manipuler tous les outils, toutes les machines-outils disponibles pour fabriquer des moteurs, pour fabriquer des châssis, pour modifier des trucs, voilà. Enfin bon. Et c'était aussi simple pour lui que de respirer. Son père lui a transmis une chose, il lui a transmis une idée qui est que la principale entrave au progrès technologique, c'est le manque d'ingéniosité et de créativité. C'est un peu osé de dire ça, mais voilà. Pour lui, il suffit juste de réfléchir et il y a toujours des solutions, on peut toujours essayer de dégoter des trucs. Et...
T'es en train de dire que Grincheux qui fout un volant sur son vélo, c'est de la créativité.
C'est ça, c'est un visionnaire.
Visionnaire.
On a dit créativité et ingéniosité.
C'est pas un ou, c'est un et.
Voilà.
Et il faut tester.
Un jour, il est devant son VTT et il se demande comment l'alléger. Et la première chose qu'il regarde, la direction, et il se rend compte qu'en fait, certaines pièces sont redondantes. Alors, à l'époque, on a donc une potence dite à plongeur, c'est une tige qui rentre dans le pivot de la fourche, avec un expandeur, c'est-à-dire une espèce de gros boulon biseauté, qu'on va visser de manière à ce qu'ils servent d'expandeur, de wedge en anglais. Oui, c'est un expandeur.
Mais t'as toujours ça comme potence sur ton camion?
Non, je suis en potence à 7.
Ah, parce que t'as changé ta fourche.
Ouais. Oui, je suis sur une... Oui.
Parce que quand je te l'ai vendu, c'est ce qu'il avait.
Ouais, mais maintenant, il est sur le vélo de madame. Voilà. Elle a cette potence, cette fourche-là.
Et donc, cette potence aussi.
Et cette potence aussi, tout à fait, elle y est encore. Elle a toujours une potence à plongeur. Donc, du coup, il est devant cette potence, et il se dit, ouais, il y a des pièces redondantes, elles sont lourdes, elles sont pleines. Il faudrait que je trouve un mode de fixation. Il y réfléchit pendant quelques temps, et... C'est en pleine nuit, anecdotiquement, c'est le cliché, mais il se réveille en pleine nuit, il fait, putain, j'ai trouvé. Il en a réveillé sa femme. Voilà. Et
okay.
Il se dit que
et
plutôt...
sa femme, elle est toujours avec lui.
Ouais. Elle doit avoir de la patience. Tu me diras, moi, la mienne, elle accepte que je bricole en plein milieu du salon. Hein. Elle a aussi beaucoup de patience.
Non, mais c'est...
Et en fait, il se dit, plutôt que de fixer à l'intérieur de la fourche, à l'intérieur du pivot de la fourche, je vais fixer à l'extérieur. Comme ça va me demander de faire une pièce avec un plus gros diamètre, ça va créer une pièce plus massive, mais qui du coup va être plus costaude, et paradoxalement, comme on va laisser le pivot vide, et qu'il n'y aura pas de pièce pleine, ça va être plus léger. Voilà. Donc, son système, effectivement, diamètre plus gros, plus solide, en plus...
Ah oui, d'accord, non mais ça y est, j'ai compris. C'est-à-dire qu'au lieu de rentrer un truc dans la fourche, tu serres le tube de
voilà,
fourche...
Voilà, le pivot, la fourche, elle est surmontée d'un tube qui rentre
dans le cadre. Au lieu d'avoir deux tubes, t'as qu'un seul tube.
VVV.
Et en fait, en l'occurrence, donc, il y a un autre avantage, c'est que ça ne réclame plus d'avoir un pivot fileté. Et c'est là qu'on va commencer à se dire, ah tiens, ben donc on peut faire des pivots alu, on peut faire des pivots carbone. Parce qu'on pense comme ça que le pivot alu, naïvement, on peut faire un filetage en aluminium, ça claque. Donc on peut pas.
C'est trop mou l'alu.
C'est mou et cassant, c'est de la merde. Donc du coup, avec son système là, on peut imaginer du pivot alu, du pivot carbone. Il commence à créer des protos, et une fois qu'il a bien travaillé le concept, alors là, j'étais en train de parler de la fin des années 80, hein. Là on est en 90. C'est sur le conseil de Ross Schaeffer. Si ce nom vous dit vaguement quelque chose, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est un cadreur californien. Il est fondateur et ancien propriétaire de la firme Salsa.
D'accord, voilà. Salsa Bike.
Salsa Bike. C'est l'ancien propriétaire et c'est le fondateur. Donc Ross Schaeffer. Ross Schaeffer qui dit, bah écoute John, va voir les représentants de Diacom PUSA. Lors de l'ouverture du championnat du monde du CI, il n'y avait pas de précision, je pense que c'était les premiers championnats VTT aux États-Unis.
C'était les gars sur des vélos Carrefour.
Ouais. Ouais, c'est ça, parce que ce qui aujourd'hui pour nous sont des vélos Carrefour, on est d'accord. Et les mecs, ils faisaient des descentes
J'ai vu des vidéos il n'y a pas longtemps.
J'ai vu des vidéos
de
descentes en 95.
Les mecs, ils avaient du courage quoi, de faire ça.
Non, on appelle ça la conscience.
La conscience, ouais. Alors. Diacompé, rapidement, c'est une firme japonaise et ils fabriquent beaucoup de composants pour le vélo. Et à l'époque, la branche US était réputée très ouverte aux nouvelles idées. C'est pour ça que tu vas voir Diacompé, eux ils vont t'écouter. C'est l'un des pontes de Diacompé US, Peter Gilbert, qui le reçoit. Mais à l'époque, ils sont super occupés. Il y a plein de vététistes, spécialement les pros qui lui courent après pour avoir des fourches suspendues. Elles viennent juste d'apparaître et c'est encore des fourches élastomères. Hein.
Ah oui.
Ils veulent de la suspendue parce que ça leur permet de gagner des secondes, etc. Donc, il en a plein le cul. Il a tout le temps les vététistes au cul qui lui disent hey, « je veux ça, tatati, tatata, tatata. » Surtout qu'en plus, Diacom PUS a pas mal de parts dans une autre société qui va bientôt faire parler d'elle, RockShox. Ça vous parle, je crois?
Oui,
voilà, vraiment. C'est des tueurs en matière de fourche.
C'est un peu
le Shimano de la fourche, quoi.
C'est la référence de la fourche suspendue.
Ouais, c'est le SRAM de la fourche.
Ouais, je dis Shimano parce qu'ils font de la pire merde à la meilleure. Un peu comme Shimano.
C'est même l'entrée de gamme est pas mauvais. On parle pas de Suntour là. Hein.
Ouais.
Voilà. Non, RockShox, c'est quand même de la bonne cam.
Ils sont là depuis le début des fourches suspendues ou presque.
Ah oui, c'est quasiment j'allais dire les créateurs de la fourche suspendue, c'est pas vrai, mais c'est l'idée quoi. C'était les tout premiers. D'ailleurs, vous verrez sur je te passerai le lien du billet que j'ai lu. La petite anecdote, c'est qu'ils étaient au même endroit, c'est-à-dire qu'il y a le tampon de RockShox et il y a le tampon de Diacompé qui sont côte à côte et c'est la même adresse, ils étaient sur Can Creek Road à Fletcher en Caroline du Nord.
D'accord.
Can Creek, ça vous dit quelque chose?
Non.
Vaguement, oui.
Vaguement, bon. Vous allez voir, on va en reparler.
Oui, juste pour préciser, j'ai souvent tendance à critiquer les fourches suspendues, etc. Je critique les fourches suspendues pour un usage urbain.
Oui,
on est d'accord. En VTT.
C'est très très bien.
Ça dépend, hein. Une bonne fourche suspendue sur un gros VAE de Gorée en ville, c'est ultra confortable.
Oui, parce que tu fais pousser le poids de la fourche par l'assistance.
Voilà. Oui, mais ça n'a pas d'intérêt.
Ça n'a pas plus d'intérêt que le confort.
Voilà.
C'est tout.
Ouais, ouais, mais
tu peux avoir du bon confort avec de l'acier.
Avec une fourche acier, une fourche carbone et des Big Apple, tu vas.
Cadre acier, fourche carbone, c'est le must.
Ouais, sur un VAE, c'est chaud à trouver quand même. Hein.
Non, je parlais pour un vélo sec. Je parlais pas pour
un VAE. Je te parle pas de vélo sec, moi.
Voilà, on parle sur VAE, d'accord.
Tu parles d'assisté.
Voilà.
C'est toi l'assisté.
Ouais.
Ça suffit. Vous arrêtez. T'assures, hein. Donc, à l'époque, Gilbert, donc, il est entouré de cyclistes qui cassent les pieds et tout. Il sort de son bureau, enfin, du truc où il était là, lors de. Des chiottes, quoi. Il dit, écoutez, monsieur, j'ai pas le temps, je vous donne 30 secondes, le temps que j'arrive au portique des officiels. Et là, donc, il y a Rader qui sort ses pièces, il prend un vélo qui traîne par là, il démonte le système à plongeur. Et il lui remonte son proto, pif paf 2 secondes. Très rapide, réglage très rapide, c'est anormal. Il faut savoir qu'une potence à plongeur, à l'époque c'est la seule chose qu'on connaît, et une potence à plongeur c'est long à régler. Jedi à vélo qui nous suit un petit peu, à qui j'ai monté un jeu de direction à plongeur cette semaine, peut vous le dire, et il est repassé à la maison pour que je lui re-règle parce que ça s'était tassé, etc. C'est la merde.
Neuf. D'ailleurs, moi il faut que je re-règle la mienne parce que justement ça flotte dans la descente et c'est pas vraiment rassurant dans la descente quand
dur.
Ça flotte.
C'est très dur à régler. À l'époque, on ne touche pas une potence, la potence on la fait régler par un spécialiste. C'est aller voir votre
potentier.
Voilà, votre bouclard, c'est lui qui va le faire.
Là, j'ai mis un potentiomètre, du coup.
Donc, du coup...
Allez voir votre gibier par la potence.
Et puis, Gilbert lui dit, désolé, j'ai pas le droit. Hop, et puis il s'en va. Sauf que la nuit suivante, il y repense, puis il dit, putain, c'était vraiment bluffant, quoi. Il a vraiment
ça arrive que la nuit, ton histoire, en fait.
Ouais, c'est ça, c'est marrant, hein, mais bon, il se dit, bon, je vais lui reposer. Le lendemain, il le rappelle, il dit, vous pouvez me refaire la démo. Et puis la démo l'intéresse, il dit écoutez, je prends votre carte. Il prend la carte et puis il appelle les ingés de chez Diacompé. Et puis il dit il faut que vous voyez le truc. Et ça cite, enfin, il cite ce qu'il leur a dit. Il leur a dit guys, I'm looking at something really freaking cool. It just shouldn't work, but it does. Les gars, je suis en train de voir un truc qui est affreusement cool. Ça devrait pas marcher, mais pourtant ça marche. Ils prennent rendez-vous, Rader leur fait une démonstration, etc. Les mecs étudient le système, et au final, ils acceptent d'être les uniques distributeurs du brevet de Rader. Ils l'aident à finaliser le brevet. La patente, elle est à Rader, quoi.
Oh, c'est cool, ça.
Voilà, tu vois, ils sont super cool.
Ah ouais, c'est...
La grande classe, ah, la carrément. Classe à Dallas, quoi. Surtout qu'en plus, il est texan. Et lui, il avait appelé ça, donc... Merci. Et donc lui il avait appelé ça son système le light set parce que son objectif c'était vraiment et donc les mecs de Diacompé lui disent on va rappeler
et là arrivent les gars du marketing
le light set, voilà, et donc c'est devenu c'est le surnom qu'on
utilise, la potence sans tête en fait,
c'est plutôt en avant, ahead,
Guingamp,
voilà, en avant. Alors, il reste un dernier problème, c'est que son système de compression, il était zarbi, il était sioux, ils avaient des trucs avec des traverses qui étaient dans la potence, etc. Ils avaient pensé à filter le pivot à l'intérieur, mais bon, ça revenait au point de départ, c'était pas élégant. Et lors du brainstorming, en réfléchissant, le chef de la prod, Doug quelque chose, j'ai pas noté le nom, je me souviens plus, il perd une roue à son siège. Il avait un siège roulant, puis il passe son...
Ah oui, il passe son de l'eau, d'accord.
Non, sur son siège, dans la salle de réunion. Du coup, il retourne le siège pour remettre sa roue en place, et il voit dans le tube où vient s'encastrer la roue, il voit une vis étoile. Pif, paf, pouf, bim, bam, boum. Hop. Putain, on a qu'à mettre une vis étoile, les gars. Et là, ils ont la solution. Plus 36 000 longueurs de pivot, on fait des étoiles préposées, et RockShox est la première firme à proposer des fourches. Voilà, ils sont entendus avec eux. Ça devient extrêmement facile à assembler.
J'ai une question, mais tu y réponds peut-être après. S'il y a un brevet,
Oui.
Aujourd'hui, tout le monde, tous les constructeurs de potences payent des redevances.
Après, justement, je vais y venir, justement. Donc, alors, le vrai problème qui va se poser, ça va être que la hauteur va être plus difficilement ajustable parce qu'il va falloir installer des entretoises entre la potence et les roulements. Donc, il y a moins d'amplitude, mais c'est un problème qui est annexe pour le VTT parce que c'est là que ça va se développer d'abord. Les premières années, en nombre absolu, les ventes vont être réduites. Et puis d'autant que les fourches suspendues restent très chères. Mais avec la diffusion des technologies, avec le constat que c'est fiable, d'autres marques vont finir par suivre le mouvement. GT, Trek, Specialized. En route, ça va suivre aussi parce que le gain du poids...
Parce que le poids... va... encore plus qu'en VTT, la chasse au poids... C'est...
Ah ouais, là ils vont kiffer. Diacombe PUS va finir par se désolidariser.
Surtout que dans une potence à plongeur, l'expandeur en général il est plein.
Ouais, l'expandeur est plein. C'est très lourd.
C'est peut-être même l'expandeur qui est le plus lourd dans la. Pas totalement, mais répartition de la taille de pièces par
c'est
rapport.
C'est pour l'aider à bien descendre en plus quand tu l'installes. Oui, non, c'est clair. Diacombe PUS va finir par se désolidariser de Diacombe Japan. Va prendre son indépendance et va changer de nom pour devenir
SRAM
Caney Creek.
Ah oui.
C'est Diacombe PUS en fait avant. Voilà.
D'accord, Caney Creek c'est voilà. Diacombe PUS.
Et c'est à peu près à cette époque-là que le brevet est passé dans le public parce que c'est un brevet techno qui est sur 20 ans. Et au bout de 20 ans, il passe dans le domaine public. Et c'est à peu près à ce moment-là que ça finit de se démocratiser et tout le monde va proposer des jeux de direction à aide.
D'accord, et donc ça fait pas si longtemps que ça que ça se démocratise parce que.
Bah, c'est fin des années 80.
C'est pas vieux, quoi. C'est il y a 10 ans, quoi.
C'est ça. Mais aujourd'hui, c'est considéré comme le standard. Alors, Peter Gilbert est toujours chez Caney Creek, et donc il raconte là dans cet article, quand on l'a interrogé, que c'est avec un de ses homologues de chez RockShox. Ils se sont donné rendez-vous à un moment dans un séminaire, machin, pour discuter, et puis ils se sont rendu compte que la techno était tellement devenue la norme, qu'en commun, lors des établissements des normes de commerciales, ils ont décidé d'un commun accord de commencer à facturer des sus. À faire des factures en sus si le client exigeait une potence à plongeur. Voilà. Donc c'est vraiment devenu le Neck Plus Ultra. Et effectivement, aujourd'hui, c'est un type de potence qui est extrêmement facile à monter. Pour rien vous cacher, j'ai monté assez peu de plongeurs, j'ai monté beaucoup d'A7 durant mes cours de mécanique. Et notre prof nous disait, vous aurez bientôt plus qu'à monter que ça. Voilà, voilà.
Oui, je me doute que ça doit être que sur les.
Sauf chez les chieurs comme moi qui ont des vieux vélos.
Voilà, c'est ça.
Tu fais de.
L'article dit c'est des potences que vous verrez plus que sur les vélos qui roulent à l'Heroica. Voilà, voilà. Je donnerai le lien à Grincheux et puis on vous le mettra sur le billet. C'est intéressant. Par contre, bon, bah, c'est en anglais, donc armez-vous de patience et du traducteur Google. Mais ça vaut le coup rien que pour les photos aussi. Pour voir les premiers protos de radar.
Je propose qu'on mette les vidéos des gars qui faisaient du VTT à cette époque-là aussi.
Aussi, ouais, ouais. Non, je suis pour. Pour voir à cette époque-là.
Déjà pour voir comment ils s'habillaient, parce que franchement, c'est marrant.
Ah bah ouais, ça va avec les peintures des vélos, hein, qui étaient bien fluo et bien dégueu.
Tu aimes le violet et le orange fluo.
Le violet, le jaune, là, bien
criard.
C'est couleur des cuissards. Alors, des danseuses de MC Hammer.
Regardez pas. Regardez pas ça pendant une gastro, hein, parce que ça y est, il y a tout qui part direct, hein, c'est dégueulasse.
Tu sais plus ce que tu dois nettoyer.
Voilà, c'est ça. Voilà, c'était mon dossier.
Eh bien, merci.
Merci, Proc. Nous sommes maintenant instruits des potences.
Voilà.
Prodigieux.
Vous êtes des gibiers de potences.
Warthog, tu enchaînes ?
J'enchaîne. Alors, je vais vous faire un. Je vais vous parler pendant le jingle. Bicycle. Je vais vous faire un petit compte-rendu bilan temporaire de la sécurité routière 2017. L'ONISR, l'organisme national interministériel de la sécurité routière, publie des bilans mensuels et des bilans annuels. Bon, comme ça représente beaucoup de données à traiter, ils n'ont pas encore publié le bilan
définitif.
Comment ?
Définitif ?
Définitif, oui, oui. Pour le moment, il y a juste le novembre 2017 et le cumul sur 12 mois glissant qui est publié. Mm-hmm. Mais on a déjà des choses intéressantes. Alors, intéressantes, mais qui ne sont pas des bonnes nouvelles, voyez-vous, parce que, bon, 2017, c'est 3504 morts sur nos routes. Plus 1,7% par rapport à 2016.
Il y a une augmentation par rapport à 2016 sur l'ensemble des morts de la route de 1,7%.
Exactement. D'accord. Voilà. Ça représente 58 984 accidents, 2,7% en plus par rapport à 2016.
D'accord. Plus d'accidents, moins plus... de morts.
Non, plus de morts.
Plus de morts, mais
plus d'accidents.
Encore plus d'accidents, voilà, que plus de morts.
Exactement. Et un total de 78 135 victimes, pardon. Et c'est pareil, ça, c'est plus 2,9% par rapport à 2016.
D'accord. Donc il y a eu une augmentation, l'augmentation de morts.
Plus d'accidents, plus de morts, plus de blessés.
Voilà.
La synthèse, c'est ça.
Sachant que l'augmentation du nombre d'accidents et de blessés est plus importante que l'augmentation de morts.
Voilà. Donc pas une bonne année. Hein. Bon, ceci dit, c'est à relativiser. Si on prend les chiffres en comparaison de 2010, qui est une année de référence pour la sécurité routière. On est à moins 15% de décès pour les véhicules légers, moins 2% pour les motos, 0% pour les piétons. On est pareil qu'en 2010 pour les piétons. Donc ça veut dire que la sécurité des piétons n'a pas progressé. Mauvaise nouvelle, on est à plus 18% pour les cyclistes.
Ah merde.
Eh oui. Moins, alors on va le pondérer après ça, je vais en parler justement. Moins 54% pour les cyclos et moins 18% sur les poids lourds. Donc, qu'est-ce qu'on constate ? On constate que les usagers les plus fragiles de la route n'ont absolument pas progressé en termes de sécurité. On a toujours, voire plus, de décès concernant ces catégories de population, d'usagers. Merci, exactement.
C'est une tablette que t'as, en fait.
Eh ouais, c'est touchable.
Ah.
T'as vu, je peux me toucher la tablette, c'est sale. bon, ce qui est intéressant de noter, la progression de 18% des décès de cyclistes entre 2010 et 2017, ça représente le passage de 147 décès à 174.
Voilà, là c'est à pondérer, c'est qu'en fait, effectivement, voilà, un pourcentage c'est un pourcentage, mais au final, c'est faible.
C'est faible, ça représente une part importante, hein, 18% c'est énorme, mais en nombre de gens, c'est finalement assez peu. Ça reste une mauvaise année, hein. Ouais. On fait plus 9% par rapport à 2016 juste pour les cyclistes, vraiment c'est mauvais. Mmh. Cependant, vas-y Grincheux, vas-y.
Et même quand on prend en compte le fait que la population cycliste a augmenté, de toute façon, les pourcentages, c'est du nombre absolu de blessés de morts.
Oui.
Donc, voilà, faut les pondérer également sur le fait que la part cyclable a augmenté.
Alors, justement,
voilà.
Parlons de ce que je connais. Lyon, depuis 10 ans, enfin, les chiffres sont donnés pour 2006, mais depuis 2006, c'est 370% d'augmentation du trafic cyclable.
Je le confirme, parce que ce chiffre-là...
370 putains de pourcents. C'est des chiffres que j'ai tirés d'un article sur le site de la Métropole.
Et ouais, et en fait, c'est, si tu veux, moi j'étais là quand ces chiffres-là, ils les ont dévoilés pour la première fois. C'était lors d'une réunion de concertation à la mairie du 3e. Donc, je te le confirme, c'était Mathieu Mélan, et je ne sais plus, c'était l'élu, merci.
Les bruits dégueulasses, là, c'est la galette toute chaude qui sort du four.
Voilà, et le merci, c'est Grincheux qui vient de me faire passer ma
voilà. Donc,
je confirme, c'est bien ça.
C'est en gros la tendance pour quasiment toutes les grandes métropoles françaises, en dehors quelques-unes. Je ne vais pas citer Marseille, parce que je vais me fâcher avec ma femme, mais voilà. En gros, 15% d'augmentation du trafic cyclable par an depuis en gros 10 ans. Donc entre 300 et 400% en fonction des villes. Exemple, Lyon, le cours Gambetta, c'est l'axe cyclable le plus emprunté. C'est au moins 6000 cyclistes par jour. Ça veut dire que ça représente 32% du trafic total de cet axe. Ok ? Donc les cyclistes, c'est un tiers du trafic sur cet axe-là. Voilà. J'ai malheureusement pas les chiffres pour le piéton parce que c'est pas comptabilisé, mais voilà. Malheureusement, cette catégorie d'usagers subit toujours une mortalité qui ne baisse pas là où toutes les autres baissent. Hein. Je vous rappelle, par rapport à 2010, 2017, c'est moins 15% de décès pour les véhicules légers, pour les voitures. Les piétons sont dans la même dans le même cas, hein, parce que 0%, ça veut dire que les chiffres n'ont pas bougé entre 2010 et 2017, c'est terrible. On a toujours 600 décès par an de piétons en France. Bon, 600 décès piétons par an, la moitié c'est sur les trottoirs, les passages piétons. Donc voilà, je ne veux pas stigmatiser une catégorie d'usagers, mais en France, les piétons sont défoncés par les bagnoles. C'est voilà, c'est ni plus ni moins.
Alors, cela dit, ça veut... ah, on a un roi. C'est Grincheux le roi.
C'est Grincheux le roi des licornes, a priori, surtout. Ah non,
c'est un âne.
Ah, désolé.
C'est
un âne.
Ouais, c'est la crèche.
Mmh, Grincheux en train de sucer l'âne, là, c'est...
ça suffit, ça. Mmh. Tu sais qu'il va le découper, c'est toujours mieux. Il va sortir son contexte, ce truc-là.
C'est toujours mieux que...
Parce qu'il y a un contexte pour sucer les ânes.
Qui est-ce qui me racontait là aujourd'hui qu'il avait offert une part de galette à un client? Il est à la fève, c'est un scooter.
Il y en a des biens.
Mais le, ouais, on est en train de parler des piétons. Et oui, les piétons sont principalement charclés par les...
D'autant plus que dans les piétons... alors attendez que je retrouve les chiffres, mais je crois que... Là, dans la part des décès de piétons, c'est 65% de plus de 65 ans. Donc, typiquement... des personnes fragiles.
La mamie qui se fait rouler dessus. Quoi.
Voilà, exactement.
Pour en parler de manière très crue, très violente.
C'est ce qui ressort de cet instantané de chiffres, c'est que, voilà. En France, voilà, 600 piétons par an qui se font rouler dessus. Pas tous, hein, c'est pas le cas, mais ça reste.
Mais sorti des pourcentages, si on met de côté les pourcentages, ça veut donc dire que, en France, il y a plus de piétons qui meurent que de cyclistes.
Oui. Oui, quasiment 3 fois plus, 4 fois plus.
On est bien d'accord que d'un point de vue d'un point de vue rationnel, c'est pas parlant parce qu'il faut parler de pourcentage pour avoir une bonne estimation statistique. Mais d'un point de vue
c'est très imagé.
C'est très imagé, voilà.
Oui. Oui, après sur Paris, la part modale de la marche, elle est énorme ça doit être 50% des trajets si tu veux.
C'est ça.
Donc voilà, statistiquement, c'est normal que tu aies cette catégorie de population qui soit plus touchée. Mais
on est tous piétons à un moment ou à un autre.
Mais voilà, je veux dire, on est tous piétons à un moment ou à un autre. Quoi. Le gars qui descend de sa voiture pour faire 3 mètres et rejoindre le trottoir, il est piéton à ce moment-là. Voilà. Je me mettrai à jour au fur et à mesure des différentes publications parce que c'est assez intéressant ce qu'ils font, l'ONISR. C'est un peu déprimant de se taper. Parce que le rapport annuel complet, il fait une trentaine de pages. C'est extrêmement détaillé. Par contre, ça parle de gens qui meurent et c'est voilà, ils font des statistiques sur les gens qui meurent à 30 jours. Enfin, lisez ça quand il y a du soleil et que tout va bien, quoi. Parce que sinon, vous allez vous jeter sous une bagnole, justement.
La question, est-ce que tu as les typologies d'accidents principales ?
Alors ça, c'est dans un autre rapport où ils font des stats sur ce qu'on appelle les BAAC, qui sont les... Merde.
Bilan d'accidentologie.
Voilà. En fait, c'est ce qui est sorti de ce que note la maréchaussée. C'est-à-dire, quand il y a un accident de la route, il y a les flics, et les flics, ils remplissent des bacs qui sont après centralisés. Et,
ouais. J'avais entendu pas mal de critiques sur ces documents parce que c'est rempli par les policiers. D'après les témoignages qu'ils reçoivent à chaud sur le lieu de l'accident, donc sans recul sur le...
C'est en effet beaucoup critiqué. Je sais que la sécurité routière, justement...
C'est en même temps, c'est des informations qui sont pas faciles à obtenir autrement.
Oui.
Et qui se demanderait un boulot monstrueux de...
A priori, ces 10 dernières années, ils ont fait un boulot assez important, non pas de formation, mais d'information. Disons que c'était pas pour emmerder les flics qui avaient ça. Ça servait vraiment derrière. Et que c'est...
Ils ont fait de la fiabilisation des données, en fait.
Exactement. Le but, c'est que, voilà, si c'est correctement rempli, que ça puisse détecter des infrastructures dangereuses et que, du coup, il y a des...
Il y a des
actions
qui soient faites.
Prises en compte, pour changer ça.
Moi, ce que je me disais, c'est que, de toute façon, les choses sont généralement assez claires et sont généralement assez suivies de près et analysées de près sur les accidents ayant fait des morts. C'est-à-dire que là où il y a des blessés, voire peut-être même des blessés graves, que ce soit rempli à la ZOB, je veux bien, mais je pense que quand il y a un mort, etc., et qu'on prend les flics entre quatre yeux, qu'on leur dit non, tu remplis correctement, vite fait, hop, tac, tac, je pense qu'ils déconnent pas. Non. Et ça pourrait être intéressant de voir l'évolution de l'accident.
Dans ton micro.
Pardon, je passe le micro, passe après. Je pense que ça pourrait être intéressant de voir l'évolution des typologies d'accidents. Typiquement, ce qu'on disait il y a quelques années, c'est que l'accident, la raison de mortalité à vélo numéro 1, c'était le poids lourd qui vérifie pas les angles morts. En numéro 2, il y avait la portière guillotine, etc. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce que
voilà. Alors ça, je regarderai, parce que ça y est dans le bilan 2016, justement, qu'ils ont publié. Ça vient assez tard, hein, parce qu'en général, ils font ça mi-février, un truc comme ça. Mm-hmm. Déjà parce qu'ils attendent tout simplement la mortalité à 30 jours, donc 31 décembre, plus 30 jours.
Voilà.
Et plus le temps de compiler toutes les données, et de les traiter, c'est un gros boulot.
Ils ont l'air d'aller même assez vite, en fait.
Oui, je sais pas combien ils sont, mais après je sais pas non plus combien de temps les données leur prennent à remonter, tu vois, il y a ça aussi, ce genre de truc.
Donc l'informatique doit être
assez rapide. Je ne sais pas. Ce qui est important de noter, c'est que donc malgré les efforts des municipalités en France, la plupart des grandes métropoles ont des plans vélo, elles ont compris.
Elles sauf ont à Marseille.
Compris, sauf à Marseille. si, attends, ils ont annoncé. Ils ont peint 50 km de piste cyclable d'un coup, là. A priori, c'était feu d'artifice et tout. À la rentrée, là, en septembre, un truc
sur comme la ça, plage.
Ils avaient forcé sur le
sur la plage. Et la corniche Kennedy va être cyclable en 2018. Je sais pas si vous voyez ce que c'est la corniche Kennedy. C'est une route qui longe la côte, qui passe, qui va en direction d'Aubagne, si je dis pas de conneries.
Ouais, c'est le l'est.
Ouais, c'est ça.
Ouais,
exactement. Et qui est basiquement une autoroute, hein, on va pas se mentir. Oui. Il y a une partie piétonne qui est assez célèbre parce que pendant un temps elle avait le banc le plus long du monde. En fait, tout l'accotement était un banc gigantesque qui faisait, je sais plus, un kilomètre de long, un truc comme ça. Et du coup, il y a un projet de refonte de ça et ça va devenir cyclable. Donc, non.
C'était une balade où il y avait beaucoup de bagnoles, mais c'était agréable parce que c'est au bord de, bien évidemment, sur le bord de
mer. Oui, tu es face à la mer, c'est très joli. Mais il y a beaucoup de bagnoles.
Ma tata est à la Ciotat.
Ta tata est à la Ciotat, bah, c'est pas une Marseillaise.
Tant mieux!
Voilà, donc la plupart des grandes métropoles, elles ont des plans vélo, mais plus que ça, elles ont compris que la cyclabilité du territoire, c'est un atout qualitatif pour les habitants, économique de leur côté. Pourtant, justement, tu vois, avec le reportage de ce cher monsieur Beccaro, l'opinion des grands médias, ça reste encore très timorée quant à la prise en compte des cyclistes comme moyen de transport pertinent. Hein ? Voilà.
Oui.
Sur un axe majeur de Lyon, 30% du trafic, c'est des cyclistes. Et pourtant, cycliste, ça reste une insulte. Quoi.
En 2011-2012, je pense que tu m'aurais dit ça. Tu m'aurais dit Gambetta, en 2017, 30% des
véhicules,
des véhicules qui seront sur cette voie, ça sera des vélos. Je pense que je t'aurais pas cru.
Ouais, non,
pourtant, à l'époque, je devais.
Même aujourd'hui, quand on te dit ça, aujourd'hui, tu dis non, c'est pas.
Ah bah moi, je peux te dire que je le prends tous les jours. Ouais,
moi, je te rappelle que j'étais.
Alors, c'est vrai que ça fait quelques années que je prends plus au quotidien.
Moi, je le prends tous les jours.
J'étais secrétaire de la ville à vélo. J'avais la foi, quoi, tu vois. Mais tu m'aurais dit ça, je t'aurais dit non,
jamais. Moi, je le prends tous les jours et. On est nombreux, quoi.
Et avec la contre-allée, quoi.
Ouais.
Ça draine du monde.
Ouais. Donc voilà. Encore du boulot, le trafic, le nombre de gens à vélo dans la rue, ça suffit pas. Il faut encore du travail d'éducation, il faut encore dire les vélos, c'est des usagers fragiles, mais pourtant, ils sont légitimes et il faut pas les victimiser.
Il y a une petite conclusion un peu cynique aussi à faire, c'est super, le nombre de morts augmente à vélo, ça veut donc dire que le vélo commence à devenir un véhicule à part entière.
Oui.
C'est cynique, hein, mais.
Alors, oui, parce que particulièrement, par contre, si tu veux constater, le trafic auto baisse.
Voilà.
Enfin, il augmente sur la totalité du territoire, mais dans toutes les métropoles, il baisse.
Alors, il y avait eu un constat qu'on avait dû relever les années précédentes, qui était que les stades d'accidentologie stagnaient, voire remontaient ces dernières années. Mais c'était aussi lié à une baisse de la communication de prévention routière.
Oui.
Est-ce que cette année, tu as des infos dans ce document qui laisse entendre que c'est qu'on a ce même phénomène de baisse de...
Ah, tu veux dire la corrélation entre moins de campagnes de prévention...
Moins de prévention et donc plus de...
Non, ils n'en parlent pas dans celui-là. Il y a juste les chiffres du cumul, hein, c'est tout.
Parce que, voilà, c'était sur les années 2015 ou 2016, je ne sais plus, où il était dit que bah, ouais, depuis le 2014, ça remonte. Mais plusieurs choses, c'était Olivier Rasmont qui en avait parlé, il me semble, que d'abord on avait atteint peut-être aussi un état plancher.
Un plateau
ou un plancher qu'on n'allait pas beaucoup pouvoir descendre avec une mortalité plus faible.
Alors je...
Je souhaite qu'on puisse aller avoir moins de mortalité encore. Mais surtout que on avait constaté que depuis 2013, qui était la dernière année de baisse d'accidentologie, si je dis pas de bêtises, il y avait eu une baisse des communications de prévention routière. Donc moins de spots
de
prévention routière.
Je sais que les gouvernements de François Hollande, toute opinion politique mise à part, ont été assez mauvaises justement sur la partie prévention routière et Sarkozy qui en fait avait on s'en souvient comme un chantre de la répression et des radars automatiques, puisque c'est sous son quinquennat que ça a explosé exactement. Pourtant à des bilans bien meilleurs, ouais, en termes de baisse Alors après c'est toujours pareil, hein, c'est quelque chose de global. L'accidentologie
c'est très complexe,
les infrastructures,
hein.
C'est les voitures, c'est la météo, la prévention, le volume de trafic, ce genre de choses. Donc voilà, c'est pas juste en disant, voyez, on a mis des radars, ça va mieux. Non.
Non, et puis il n'y a pas que ça. Mais
il n'y a pas que ça. C'est très compliqué. Après, ce que j'ai pas eu le temps de faire, notamment parce que je ne parle pas la langue, mais qui serait assez intéressant, je vais essayer de voir si je peux trouver des sources en anglais là-dessus, ce serait de comparer avec nos voisins européens, notamment allemands, notamment anglais, notamment
néerlandais.
Peut-être qu'on peut trouver des choses en Belgique qui sont intéressantes. Toujours pareil, c'est à pondérer puisque les territoires sont différents. Hein, la France, c'est un pays d'autoroute, l'Allemagne aussi, mais avec pas les mêmes comportements, pas les mêmes voitures. Le Royaume-Uni, c'est un pays de petites routes, donc voilà, c'est des trucs à comparer pour aller voir.
C'est comparé, mais faut pas non plus prendre tout pour.
Non, le but c'est pas de dire, voyez, ouais. C'est mieux machin, c'est mieux machin. Voilà, dans ce pays c'est comme ça. Est-ce que ce serait pas à cause de ça, à cause de ci, à cause de mi? Voilà. Par exemple, je sais que typiquement les Pays-Bas, ils ont un ratio mort par kilomètre parcouru qui est bien bien plus bas que la France.
Oui. Comme on dit toujours, plus il y a de cyclistes, plus les automobilistes sont habitués à avoir des cyclistes, donc plus ils font attention.
C'est un plus petit pays, ça veut dire qu'il y a moins de trafic qui le traverse.
Ils ont aussi une politique d'infrastructure qui est différente.
Alors, pour y être allé, j'avoue que c'est un truc qui m'a bluffé, c'était il y a quelques années déjà, c'était il y a longtemps.
C'est que des pistes. Ouais.
Alors, c'est pas une question de piste en fait, c'est une question que, quel que soit le destinataire de l'infrastructure, elle est bien foutue, que ce soit pour les bagnoles, que ce soit pour les piétons, que ce soit pour les cyclistes. C'est réfléchi, c'est fait utilement. Voilà, c'est le design est intelligent et le design apprend à l'usager. Hein. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir des pistes cyclables qui s'arrêtent avant un rond-point.
C'est de l'ergonomie.
Voilà, c'est de l'ergonomie. Exactement, c'est de l'ergonomie des infrastructures.
Je cherche justement
J'y suis allé deux fois, c'était il y a plus de 10 ans maintenant. Donc,
je cherche cette vidéo. Il y a
10 ans, si on avait maintenant en France le niveau de qualité d'infrastructure qu'il y avait là-bas il y a 10 ans. Voilà.
Tiens, tu veux voir un exemple d'infrastructure extraordinaire.
Grincheux nous passe du porno.
C'est du porn bike.
C'est du porn bike.
Donc c'est un tourne à droite. Donc c'est la voie pour tourner à droite en voiture. Et là, en fait, bah, pour forcer les voitures à ralentir, donc il y a visiblement une 2x3 voies voiture avec la piste cyclable séparée à droite de la voie de circulation. Et il y a un croisement.
En fait, il y a une des trois voies de la voiture qui...
La plus à droite est pour tourner à droite et qui va couper la piste cyclable. Mais la subtilité, c'est que cette voie dédiée pour tourner...
Ah, c'est un plateau traversant.
Ouvre sur un plateau traversant
voilà.
Pour forcer les gens à ralentir. et donc vérifier le céder le passage pour les cyclistes.
Le trottoir a pas d'abaissement, il reste à même niveau. Du coup, c'est la voiture qui va monter sur un.
En fait, qui va se prendre un dodan avant de tourner.
C'est ça.
Et avant, ouais. Donc un aménagement qui est relativement simple en conception et qui mécaniquement oblige l'automobiliste à.
Tu peux pas tourner sans regarder. Enfin, voilà. Pas tourner sans ralentir. Mais tu peux ralentir.
Ça applique une règle simple et ça l'applique de manière rigoureuse et sans exception. C'est que la voiture, elle roule 20-30 cm en dessous de là où marchent les piétons.
Oui. Oui.
Et systématiquement, et quand un piéton marche, il est toujours à même hauteur. Et si la voiture change de direction pour prendre une rue et qu'elle croise la direction d'un piéton, elle va monter là où est le piéton. Donc ça va la forcer à ralentir. Et surtout, d'un point de vue psychologique, ça a un gros impact. C'est que ça matérialise la priorité. La priorité est au piéton. La voiture va être tenue de ralentir. Elle ralentit pas. Bon, elle peut faucher un piéton, mais s'il n'y a pas de piéton, elle va se péter les suspensions dessus.
S'il arrive un peu trop vite, il va se péter les suspensions ou se foutre sur le toit.
Voilà. Ou se tasser les lombaires aussi, c'est possible. Mais voilà.
Voir tout à la fois.
Tout à la fois. Là, clairement, c'est l'environnement, c'est la physique des corps qui dit
non, mais
tu n'es pas prioritaire.
C'est du design intelligent.
C'est du design intelligent et qui fait que mécaniquement, tu vas être obligé de ralentir et donc de faire attention au fait que tu vas sur une intersection.
Je suis sûr que si un espèce de dingo qui fait des stats sur le cyclocast, sur les sujets qu'on aborde, je suis sûr que le nom que j'ai le plus prononcé, le nom d'une personne que j'ai le plus prononcé...
C'est Rocco Siffredi.
Voilà. Non.
Il y a une grosse potence.
C'est Hans Mondermann. Et encore une fois, Hans Mondermann, c'est le prince... Il est parti beaucoup trop tôt encore, ce pauvre gars. C'était le prince des urbanistes. Et le mec, Yves Netou, était néerlandais. Chez eux, c'est un véritable art. Et ça le prouve, quoi. Voilà. Ce genre de choses le prouve.
Et du boulot. Merci à tous.
Merci à toi, c'était un super taf.
Ça va être à moi.
Ouais. Tu vas nous parler de quoi, toi ?
Il nous l'a pas dit, je crois.
Alors, ça n'aura échappé à personne, c'est l'hiver.
Ah bah oui.
Bon, ça va, je suis venu en t-shirt, franchement.
Mais bon, c'est pas pour ça qu'on va s'arrêter de rouler, hein. Donc au quotidien, bon, c'est facile, un petit peu en plus, des gros gants, des grosses chaussettes, et roule ma poule. Faut juste être plus vigilant quand c'est humide, parce que bon, ça glisse facilement. Quand il neige, bon, ça va dépendre de la quantité de neige qui tombe.
Putain, une fois il a neigé à Lyon, j'étais bloqué du dos, j'étais obligé de prendre le métro, j'étais dégoûté.
Si ça tient pas, on change rien, on est juste un peu plus attentif. Si ça tient, tant que c'est frais, sauf les pneus lisses sans structure, on peut rouler. Les structures accrocheront dans la neige fraîche. Pensez quand même à dégonfler un peu les pneus pour augmenter la surface d'adhérence.
Dégonfle les pneus, on baisse la selle et au boulot tout en drift.
Si tu as des pneus très très fins, des pneus en 19 sans structure, ça passe très bien aussi parce qu'ils tranchent la neige.
Voilà.
Mais il faut des pneus fins, quoi.
Si ça gèle, là, ça peut poser un peu plus de problèmes. Surtout les deuxièmes, troisième jours quand la neige est
bien tassée,
que ça a regelé. Faites super gaffe aux ponts. Parce que les ponts, c'est froid. Il y a de l'air qui passe en dessous.
La seule fois où j'ai pris une tarte en 2016, c'est ça. C'est en remontant, passant le pont juste avant de prendre le tunnel. Tout allait bien le long du trajet. Et il y avait une petite plaque de merde juste dans le virage.
Ouais.
Et voilà.
Ouais, moi j'ai...
C'est là qui sale le plus, d'ailleurs.
Attaquer le pont Lafayette. La route était dégagée, mais le pont n'était pas... Le trottoir. Enfin, le trottoir et donc la piste cyclable.
Celle où il y a les poteaux au milieu, là.
Ouais.
Eh bien, celle-là.
Elle est fabuleuse.
Design intelligent.
J'arrivais à peu près à un bon 20 à l'heure là-dessus. Et là, c'est... Ouh, mais c'est tout le temps neigé, tout gelé là-dessus. Ouh, 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 ouh. Et donc, là, si ça gèle, la meilleure solution, c'est quand même de pouvoir mettre des pneus cloutés. Mmh. Et heureusement, ce jour-là, j'avais des pneus cloutés. Donc, je ne me suis pas foutu au tas.
J'avais pas pensé au fait qu'effectivement, les ponts, il y a de l'air qui passe dessous.
Oui, c'est vrai que c'est pas isolé.
C'est une vraie saloperie, les ponts. Donc, méfiez-vous vraiment des ponts.
En fait, tu préférerais prendre le bac ?
Ouais, sinon, je préférerais éviter...
Ou pédalo ?
Ouais, non. Mais bon, en fait, ce soir, je voulais pas vous parler de rouler plus que le... Je voulais vous parler de rouler plus que le quotidien, en fait. Parce que le mois dernier, donc mi-décembre, Je devais aller à Dijon pour arbitrer des matchs de roller derby. Oui, c'est pas du vélo. Alors je me suis dit, bah, Lyon-Dijon, 200 km, c'est nickel. J'ai une journée de libre pour y aller. Je combine vélo et derby. Ça me fait un super week-end et je rentre en train. Ouais. Bon, c'était pas que une bonne idée, parce que bon, descendre dans le Beaujolais et dans l'Ain, il fait pas vraiment super chaud, et...
C'est pour ça qu'ils produisent du pinard, c'est pour se réchauffer.
et la journée est courte en plus.
Ouais, par contre, t'as pas... T'es parti pile...
J'ai pris un des jours les plus courts. Ouais.
Ça s'est vu sur tes photos, le soleil décline vite, ouais. Putain.
Mais bon, pour pimenter le tout... Bah, j'avais décidé que, bah, suite à des déboires de mécanique, bah, dont j'ai vaguement parlé, puisque je parlais d'hérissons qui flottaient, parce que j'ai pas forcément bien remonté ma.
Enfin, au niveau de grincheux, c'est plus des déboires, c'est une tradition, une espèce de d'habitude, quoi.
C'est pas vrai.
C'est pas vrai.
Sa roue arrière marchait très bien.
Tout à fait, merci Proc. Donc, pour pimenter le tout, j'avais décidé que j'allais partir avec le Bullitt.
Oui, parce que 200 km, ça fait fillette, vous voyez.
200 km, voilà. En hiver, avec un cargo. Alors, spoiler, je l'ai fait.
Et il est revenu, la preuve,
il est là. Le cargo aussi.
Le cargo aussi.
Tout à fait.
Je n'ai eu aucun problème avec le cargo. Alors, ça n'a pas été facile quand même, hein. Donc, je suis parti avec mon cargo allégé, donc seulement 25 kilos à la louche.
Mmh. Bon gros Vélib.
Voilà. Ouais, mais bon, un Vélib avec une transmission.
Oui, oui, c'est sûr.
Avec
c'est sûr.
Du 27 vitesses, ouais, ça va.
30 maintenant.
Ah oui, t'es passé en 10 à l'arrière, oui. C'est vrai.
Je suis parti donc de bon matin, après le lever du soleil quand même, mais pour profiter.
11h15 du coup en décembre.
Non, je suis parti vers 9h. Pour profiter au maximum de la lumière du jour. Bon, j'étais équipé, j'avais mes jambières d'hiver, un t-shirt de ski, pull mérinos et softshell, des chaussettes en mérinos sous mes chaussures d'hiver, des sous-gants en soie et mes gros gants pour protéger les extrémités. J'avais aussi prévu une grosse quantité de barres énergétiques, de barres de céréales et autres fruits secs.
Le cargo était rabord de bouffe.
Ouais, c'était...
J'avais prévu la crème de marron aussi
la crème de marron.
Ça, ouais. C'est la bonne vieille habitude de Ben, de notre copain alsacien.
Et ouais, non mais économiquement, le vélo c'est pas économique parce que là, en barre énergétique,
plein d'essence, quoi.
Mais voilà. Côté mécanique, donc le Bullitt, comme on vient de l'évoquer, était fraîchement révisé par Proc.
La roue arrière. Je t'avais révisé la roue arrière.
Ouais, exactement. J'étais confiant.
Le rétrofusé sur le côté.
Si, c'est ça. J'avais rajouté donc un éclairage en plus dans mon éclairage standard avec mon IQ2 à l'avant et mon feu arrière, je sais plus, top line machin. Enfin,
t'avais mis un phare en plus.
J'avais mis un phare avant et un phare arrière en plus. Ouais,
d'accord.
Alors tu peux le faire, mais selon la législation française, ils doivent être dans le plomb longitudinal du vélo, l'un sur l'autre.
Mmh. Bah, c'est à peu près le cas.
Ouais.
C'était à peu près le cas.
Tu dois pas donner l'impression d'être une voiture avec deux phares avant, deux phares arrière.
Mon bout de chair est donc complètement illégal.
Mais t'es un triporteur, toi.
C'est pareil, hein. C'est un cycle.
J'avais aussi pris une batterie USB externe pour pas être à court de jus, ni pour le GPS, ni pour le portable en cas de pépin, parce que c'est le moment où tu te retrouves en galère, t'es au milieu de la pampa et t'as le téléphone qui est à plat.
Il y a des loups maintenant en France, faut faire gaffe.
Ouais, il y a des loups, ouais.
Si, il y a.
Il y a des lynx aussi.
Ouais.
Donc le départ se passe bien, mais bon, rapidement, j'entrevois un problème à venir. C'est qu'avec le froid, j'ai besoin de beaucoup m'alimenter. Bon, ça, c'était pas vraiment directement le problème, ça, je l'avais bien anticipé avec le stock que j'avais prévu. Mais par contre, avec mes gants, eh ben, va ouvrir des barres de céréales avec les gants d'hiver et les sous-gants en soie en dessous. Donc, impossible de manger en roulant. Donc, obligé de faire des pauses pour pouvoir m'alimenter. Et là, la moyenne, elle va en prendre un coup. Donc, bon, c'est pas que j'ai vraiment un record à battre ou quoi, mais j'aimerais bien limiter la durée de roulage la nuit. Et donc,
Parce qu'il y a des loups.
Non, c'est parce que j'ai envie d'arriver.
Ah. Non, c'est parce qu'il y a des lynx.
Bon, alors pas le choix, ben, je roule avec mes pauses. J'en profite pour donner des nouvelles via Twitter. Je pense à boire aussi parce que c'est pas parce qu'il fait 4 degrés dehors qu'on ne se déshydrate pas. Pensez-y.
Et pour assimiler les nutriments, le corps il a besoin d'eau.
Voilà. Donc pensez-y, c'est quand même une grosse sortie, il faut boire, boire et boire. Alors forcément, je visais Bourg-en-Bresse pour me faire ma pause déjeuner. Avec toutes les pauses que j'ai faites, j'ai déjà du retard, donc je m'arrête 15 km avant. Je trouve une pizzeria où me restaurer au chaud, parce que ça j'avais bien prévu. À midi, je m'arrête, je vais me bouffer à l'intérieur dans un petit resto.
Bourg-en-Bresse, c'est sur le trajet Lyon-Dijon ?
Eh ben oui.
Oui, oui. Macon aussi.
Maintenant, alors, je vois bien, ouais. Bourg-en-Bresse.
Ben, en fait, c'est plus long par Mâcon que par Bourg.
D'accord.
Et en plus.
Dijon, c'est pas pile au nord de Lyon, en fait. C'est un peu décalé à l'est.
Ouais, ouais. Et tu montes la Dombe, tu prends Bourg et c'est tout droit.
Ouais, d'accord.
Et c'est relativement plat.
Ouais.
Alors que
ça va ballonner un peu dans le nord de
Lyon.
Ouais,
c'est de la bosse. C'est chiant. C'est chiant. En fait, c'est une route qui est chiant parce que c'est sur une route droite.
Ouais, Dijon, c'est chiant, le faites pas.
Ouais. C'est relativement chiant quand même.
Pleine.
Donc puis bon, j'avais pas fait l'itinéraire, j'avais fait l'itinéraire au plus court en évitant les plus gros axes, mais au plus court quand même parce que
faut pas déconner, c'est nul.
Ouais, voilà. Et puis 200 bornes, c'est bien. Mais je vais pas aller en rajouter 20 non plus, quoi.
Oh là là, tu t'es même pas un peu paumé.
J'ai eu deux coquilles parce que je me suis rendu compte que mon GPS s'est mis à déconner, ne s'allumait plus, mais j'en parle plus tard. Il s'allumait plus pour me dire les bifurcations. Donc quand t'es de nuit, tu t'attends à voir le GPS qui te flash à la gueule. Le rétroéclairage. Non, il fonctionnait. Bon, à part quand j'ai fait ma deuxième pause, il a planté, il m'a perdu toute la trace. Mais bon, ça c'est pas grave. Il a perdu ce qu'il m'avait enregistré. Ah. Il me guidait toujours.
Il y a pas de preuve, quoi.
Il y a pas de preuve. J'ai falsifié les preuves pour en recréer, mais c'est pas. Mais il y a eu un moment dans la soirée, il s'est mis à ne plus s'allumer pour m'indiquer les changements de direction.
D'accord.
Fuck du shit, démerde-toi.
Merci. Je pouvais l'allumer manuellement, mais il fallait que je pense à faire gaffe que je changeais de direction. Mm-hmm. Et donc j'ai loupé une bifurcation. Et puis une deuxième. Donc la première, tu dis bon, je suis fatigué, j'ai pas fait gaffe. La deuxième, tu dis bon, tu te fous de ma gueule là parce que on est en nuit noire. Quand si t'avais flashé, je l'aurais vu, quoi.
Et puis au bout d'un moment, il a vu un panneau, il avait marqué Ferney Voltaire. Il s'est dit putain, merde.
Non, j'ai surtout un panneau autoroute et non, mais c'était pas prévu que je passe par l'autoroute là pour aller à Dijon.
C'est plus rapide pourtant.
Ouais, ça marche bien.
Donc, mais pour l'instant, j'en suis encore à vous raconter que midi. Donc, je trouve une pizzeria où me restaurer au chaud. Ça pénalise la durée du trajet, mais ça, c'était nécessaire pour reprendre des forces et pour le moral.
Et puis te réchauffer.
Et me réchauffer un peu, accessoirement. Donc, et là, j'ai pris conscience d'un gros problème. Au moment de repartir, donc, je me suis bien réchauffé, mais mon pull est encore humide. Donc, je m'équipe et en sortant. L'air est glacial, donc toujours à peu près 4 degrés.
Les fringues mouillées quand il fait froid.
Et instantanément transi de froid, à grelotter tout ce que je peux. Donc pas le choix, il faut bouger pour me réchauffer. Donc je me force à pédaler pendant ça a duré une vingtaine de minutes à peu près. Mmh. Et t'es là en train de dire, mais je peux pas avancer comme ça, elle est où la gare la plus proche? Et puis au bout d'un quart d'heure, tu commences à être réchauffé.
Remplacé par la transpiration chaude, le contenu du.
Voilà.
T'as réchauffé l'eau qui était dans ton.
J'ai réchauffé les vêtements autour et donc.
Alors qu'il t'aurait mis le pull au four à pizza, là, c'était parfait.
Ouais, pas forcément. Et donc voilà, ça m'a pris à peu près 20 minutes pour que mon corps se réchauffe et réchauffe les vêtements autour. Après, bon, l'après-midi est long et monotone. Comme je dis, voilà, la route est monotone, c'est assez chiant. Mmh. Je croise très peu de cyclistes. J'en ai croisé quelques-uns.
Quand même.
J'en ai eu un sur son qui m'a à peine salué avec son vélo de triathlète. Il m'a doublé trois fois sur la même ligne droite. il se faisait l'aller-retour entre deux ronds-points.
Ah. Il devait le roder, non?
Ouais.
Je sais pas.
Il s'entraînait. Les triathlètes, les triathlètes, ils roulent comme des bourrins.
Mais voilà, donc bon, une pratique qui me laisse assez dubitatif. Hein.
C'est peut-être des ronds-points magnifiques.
Voilà. Je fais des pauses, je mange, je bois, je prends des photos, je donne des nouvelles. Et puis arrive 16h30. 16h30, le soleil se couche. Et là, en quelques minutes, la température chute et le thermomètre m'a dit 0 degré. Alors je suis en train de rouler, ça va. Et psychologiquement, putain, tu dis là, tu tombes à zéro, psychologiquement, c'est dur.
C'est une grosse barrière.
Oui. Donc, je me force pour pas faire ma pause dîner trop tôt. Je continue à rouler, je fais mes pauses, pas trop longues. Puis au bout d'un moment, bah, de toute façon, j'ai plus besoin de me forcer. Parce que je suis en train de me dire, bon, bah là, il est 6h30, c'est un peu tôt pour dîner, etc. Mais bon, je commence à avoir un coup de mou. Ce serait pas mal. Mais là, bah non, j'ai pas besoin de me forcer à aller plus loin. Les patelins que je traverse, c'est le désert. Je suis en train de me dire, putain, à quelle heure je vais arriver à trouver un truc pour bouffer. Et puis bah, le village, c'est un gros village quand même, patelin suivant, là je vois un petit supermarché, donc je m'arrête au supermarché d'abord pour m'acheter un pack de bière, pas pour moi pour la route, mais pour offrir aux gens qui m'hébergeaient à l'arrivée.
C'était histoire d'avoir un truc dans le boulit, quoi.
Ouais, voilà.
C'est bien quand ça fait gros lot.
J'ai fait mes 40 derniers kilomètres. J'ai fait les derniers 40 kilomètres avec un pack de bière à l'avant.
Putain, ils ont pas dû être secoués les bières déjà.
Non, ça allait.
Non, ça va.
Ça va. Et puis, bah, je suis rentré dans le village. J'ai trouvé une autre pizzeria. Donc cette fois-ci, je pense à enlever mon pull pour le mettre à sécher. Mon t-shirt technique pue la mort. Mmh. À tel point que même moi, toi, qui suis dedans, ça me gêne.
Monsieur, si vous voulez manger dedans, nous, on va manger dedans, quoi.
Mais par contre, en repartant, mon pull est à peu près sec, mais...
Mais t'as froid quand même.
J'ai...
Ouais, c'est le
transit froid, voilà, le changement de température, ça n'y fait rien.
On rigole, mais en fait, t'aurais dû bouffer dehors. Hein.
Il me reste à peu près 40 km à faire. Et là, je repars encore en claquant des dents.
Et au bout de 20 minutes, pareil, tu t'es réchauffé.
Au bout de 20 minutes, voilà, j'ai repris ma température. Alors psychologiquement, ça va mieux parce que j'ai déjà vécu le midi et je sais que.
Tu sais que la barrière, elle
faut que je faut que je me force à pédaler pour me réchauffer et que ça va aller et que ça va passer. Mais t'as la fatigue. Mmh. Après, je me dis, bon, allez, il reste 40 km, j'ai fait le plus gros. C'est.
Ce serait con d'arrêter maintenant.
Oui, non, mais de toute façon, je vais pas faire demi-tour.
T'es au milieu de la pampa, tu peux pas t'arrêter maintenant.
Voilà, des trains, il était déjà 8h du soir. Aller me faire 20 bornes pour aller choper un hypothétique train ou me faire 40 bornes pour terminer. Voilà.
En fait, les conditions étaient là pour dire démerde-toi, en fait.
Un peu.
Fuck you.
Fuck you. Alors, forcément, je l'aurais fait avec Théo, ça aurait été. Bah, j'aurais eu déjà 5 km/h de moyenne de plus.
Tu serais déjà arrivé à ce moment-là.
J'aurais fait ma pause à Bourg le matin, enfin le midi comme prévu.
Ouais.
J'aurais tenu une cadence plus acceptable. Mais bon. En même temps, voilà, vu que j'ai toujours la direction qui a du flottement, pour 200 km,
pour les gens qui connaissent pas trop, Théo n'est pas son fils ou son meilleur pote, ou c'est un autre vélo qu'il a, mais les vélos de Grinch ont tous des prénoms. Voilà.
C'est... Oui. Donc, je roule, je multiplie les pauses, j'essaie de ne pas me refroidir, de ne pas faire des pauses trop longues pour ne pas me refroidir. Je ne regarde plus la montre parce que, bon, même si je n'avais déjà pas d'objectif de
parce que dans ce genre de conditions, c'est une connasse. Surtout pas.
Voilà, maintenant, mon objectif est d'arriver et d'être suffisamment, de pas me cramer pour être en état parce que le lendemain, il faut aussi que j'arbitre le lendemain et donc faut que je sois encore conscient le lendemain.
Ah, conscient, carrément.
Ouais. Ah, non. Bah, même si le gymnase était pas loin, il fallait que j'y aille avec le vélo.
Ouais, ouais.
Que je retourne à la gare après.
Oui.
Donc, voilà. Donc c'est à ce moment-là que le GPS décide de ne plus allumer le rétroéclairage pour m'indiquer les changements de direction. C'est vrai que c'est très surfait de les changements de direction, donc forcément je rate un embranchement, quelques kilomètres de détour. Le première fois, voilà, tu te dis mais je suis fatigué, c'est moi qui ai pas fait gaffe qui m'indiquait un truc. Puis t'as le doute. Et puis quand quelques dizaines de kilomètres plus tard, tu te retrouves à nouveau avec des panneaux Dijon autoroute. Mais merde, attends, je suis plus sur la bonne route. C'est quoi ce bordel? Tu rallumes le truc, tu regardes la carte hors trajet, hors parcours. Merde. Bon, alors je suis où? C'est où que je dois aller? Encore une fois, c'était juste 2 km de détour.
Ouais.
Mais bon, 2 km de détour par-ci, 2 km de détour par-là, quand on a 180 ou 190 dans les pattes, que t'es glacé, putain, que t'en peux plus.
Il file du rab et il fait la fine bouche, quoi.
Y a des moments où t'en as ras-le-bol, quand même. Donc, voilà, pas trop de détours, mais quand même un petit peu. Donc voilà, j'ai de la batterie dans le GPS. J'ai plus très loin à aller, donc je force l'affichage en éclairage permanent, comme ça au moins je.
T'es tranquille, tu.
Je peux vérifier toutes les deux minutes si je veux. Je vais pas faire des gros détours une nouvelle fois. Et ben au final, j'arrive quand même à destination.
À quelle heure?
Il était 23h, j'avais 14h de.
Ah ouais.
Et j'ai même pas validé un BRM 200 parce que c'est de 13h pour un BRM 200.
Oh la honte. Ouais, mais il y a pas de catégorie cargo aussi.
Il y a pas de catégorie, t'es avec un vélo.
Oui, d'accord, non, t'es avec un vélo, mais enfin bon.
Tu peux le faire en vélo mobile, tu peux le faire en cargo, tu peux le faire en monocycle.
S'il vous plaît, en monocycle. C'est pas un vélo le monocycle.
Tu peux le faire en footbike.
C'est pas un vélo.
Eh ben, figure-toi que pour les BRM, oui.
Eh ben, c'est pas un vélo, je suis désolé, ça devrait pas être accepté.
C'est accepté pourtant.
Donc voilà, 14 heures pour me faire 200 km. C'est long, trop long même. Mais bon, vu les circonstances, je suis pas trop mécontent de moi-même.
Tu peux.
Ouais, non, c'est plutôt. Ouais. Surtout à ton grand âge, faut pas oublier ce paramètre-là.
Alors, tu oublies un paramètre, c'est que justement, pour l'endurance, c'est avec l'âge que qu'on se met.
Non, c'est une connerie, ça. C'est qu'en fait, les athlètes, ils arrêtent de faire de la performance en vieillissant, donc ils se mettent à l'endurance. Mais les jeunes, ils sont aussi bons en endurance, hein, c'est juste que ça les saoule.
Non, les jeunes ne savent pas garder une cadence.
Les conneries de vieux.
Bah, viens faire un BRM.
Non, mais moi, je me cale dans les vieux.
Hein. Viens faire un BRM.
Non, tu merci, veux... ça va, c'est gentil.
Tu vas voir, on est même moi, je suis parmi les jeunes.
J'en doute pas, hein, mais merci.
Ce qui est vrai, c'est qu'avec l'âge, on gagne en endurance. Tu regarderas tous les marathoniens.
Je me fous de votre gueule, hein, mais non, c'est faux. C'est pas vrai. C'est juste que.
Non, alors, on gagne peut-être pas.
Tu gagnes pas en endurance, tu gagnes en sagesse. Voilà.
En technique, voilà. Qui te permet de faire de l'endurance.
Physiologiquement, tu as autant d'endurance quand t'es jeune que quand t'es vieux.
Voilà, mais ce que je veux dire par là, c'est que si tu veux,
tu sais pas l'utiliser.
Tu sais l'utiliser.
Regarde les Kenyans qui gagnent des marathons.
Ils ont quel âge?
Bah, 22, 23, 24 ans. Ah, si.
Non, moi, c'est pas les mêmes chiffres que j'ai vus. Ils ont la trentaine.
Tu regarderas, ils sont vachement jeunes. Parce que c'est un sport qui est super populaire chez eux et qui s'entraîne tout petit. C'est tout.
Ok. Bon,
donc, voilà, au final, 200 km en hiver, ça se fait. Au niveau de l'équipement, ce que j'avais prévu.
Parce que des fois, il n'y a pas des trous où tu étais trop couvert, justement. T'as pas eu trop chaud, c'est ma question.
Non, pas tellement. C'est ce que je craignais. C'est ce que je craignais, mais c'est ce qui a fait aussi que je partais, que j'étais glacé quand je faisais des grosses pauses.
Oui, parce que du coup, tu
transpirais. Voilà. Mais une fois que j'étais chaud, j'étais bien. J'ai pas eu trop chaud. Alors, j'aurais peut-être pu être un poil moins couvert, mais je suis pas sûr que j'aurais été
plus de confort.
Ouais, plus de confort.
Plus efficace.
Non, là, j'étais assez content de mon choix, parce que forcément, ça, c'était une grosse question. J'avais pas envie de me trimballer des fringants en trop. Mais je me suis posé la question de prendre ma deuxième softshell plus épaisse. Et finalement, j'ai opté pour la softshell plus light, qui a été largement suffisante.
Ce qui était le plus trempe, donc, pour toi, c'était à chaque fois, c'était le sous-pull en mérinos.
Non, le t-shirt technique d'hiver.
Non, mais ce qui était froid et qui te gelait, c'était le t-shirt ou c'était le sous-pull?
Je sais pas, c'est un peu tout. Mais je crois que c'était surtout le fait de ressortir en plein froid et de pas avoir mes freins qui soient déjà chauffés et le corps qui n'est pas en effort refroidi.
Ça aurait pu avoir le coup d'avoir des fringues secs propres pour switcher à chaque fois.
Ouais, peut-être. Je switchais trois fois dans la journée.
Non, mais même par grand froid, si tu suspends ton à quelque chose,
oui, ça va sécher.
Ça va sécher, quoi.
Tu les files au gars qui fait les allers-retours, là, en 10 minutes, c'est sec.
C'est ça, voilà.
Vitesse roule. Ouais.
Non, bah, au niveau des fringues, c'était pas trop mal. Au niveau de la bouffe, j'avais bien calculé. J'avais un peu de marge, mais pas tant que ça. J'ai flippé un moment parce que à midi, j'ai fait remplir mes bidons au resto. Le soir, je m'étais déjà arrêté parce que avant d'arriver au resto, j'avais les bidons qui commençaient à être à sec. Et là, j'ai avisé un cimetière.
Eau non potable.
Non. Alors là, j'étais pas en état de voir des panneaux. il y avait pas de panneaux, il y avait rien n'était indiqué. Non, mais par contre, comme il faisait moins 2, moins 3, je craignais que le robinet soit fermé.
D'accord.
Et non, le robinet était encore ouvert. Mais ça, c'était ma crainte, c'était d'avoir un robinet fermé. Et donc, j'ai rempli mes bidons à ce moment-là. Donc, je les ai remplis le midi, je les ai remplis en fin de journée avant le dîner. Et mes 2 litres de flotte, donc j'ai consommé 3,5 litres de flotte sur la journée, quoi.
3 litres, plus, ça fait 1,5 litre au 100, ça va, il consomme plus, pas beaucoup le grincheux.
Plus ce que j'ai bu pendant les repas, où là j'ai dû boire 1 litre à table à chaque fois.
Donc ça, c'est logique.
Donc pour la bouffe, c'était pas mal. Donc le bon truc, c'est que là, quand tu pars dans un truc comme ça, bon, déjà j'avais des chambres à air avec moi, un multi-tool, parce que j'avais une des poignées qui était pas bien réglée et qui me faisait un syndrome carpien, de canal carpien. Donc là j'étais à peine parti de Lyon aux échelles, j'avais fait quoi 15 bornes et je commençais à avoir mal à la main droite, j'ai fait non pas cool là, je vais pas arriver au bout comme ça. Donc j'ai fait une pause, c'était ma toute première pause en fait, juste pour régler l'inclinaison de la poignée, pour changer l'appui, et puis ça s'est avéré être le bon réglage.
Du coup, t'as rien cassé, t'as pas crevé, t'as...
Aucun problème mécanique.
Putain, il nous ment.
Ouais, j'ai eu assez d'autres galères autour, mais par contre, il y a un truc qui m'a vraiment choqué. T'es là, le soir, 8h, 9h, 10h, tu t'arrêtes faire une pause. Des fois, je me suis arrêté, je me suis assis sur le plateau du bullet sur les dernières pauses. T'es au bord de la route, t'as des bagnoles qui passent, t'es au milieu de la pampa, au milieu de nulle part. Il voit un mec en vélo arrêté. T'en as pas un qui s'est arrêté pour demander si j'avais pas un problème.
Alors je précise, ce soir Grincheux a les cheveux bleus. Est-ce que à l'époque tu avais les cheveux bleus? Parce que moi je vois un gars avec les cheveux bleus, je m'arrête pas.
De toute façon j'avais le casque sur la tête.
Mais t'es un estranger aussi là, rigolo à vélo.
Ils sont peut-être dans leur bulle.
Ou alors
ils t'ont pas vu. Hein.
Potentiellement ils t'ont même pas vu.
Ouais, enfin, voilà, là sur les derniers 40 km, j'ai regardé sur. Puisque là, j'ai la trace réelle sur Strava, j'ai fait 6 pauses en 40 km.
Ah, ça fait beaucoup, ouais.
Ça fait beaucoup.
Ouais, tu sens que sur la fin, c'était la fatigue.
Voilà, t'avais la fatigue, voilà. Et tu te dis, mais t'as un mec qui est au bord de la route, toi, tu. Ok, que tout le monde, que toutes les bagnoles me captent pas, je veux bien. Mais il n'y en ait pas un qui se soit arrêté pour demander si j'avais un problème ou quoi. Je trouve que c'est assez flippant. Tu peux.
Moi, ça ne m'étonne pas. C'est triste. Hein,
c'est, oui, ouais, c'est très triste, je trouve. Ouais. Donc voilà. J'ai eu beaucoup de commentaires sur Twitter parce que j'ai raconté mon périple un peu tout au long du périple, en live. J'avais commencé à essayer d'enregistrer pendant les pauses, et puis bon, c'était creux, il n'y avait rien à raconter. Enfin,
juste des bruits de mangeage de barres de céréales.
Ouais, voilà. Donc, c'est quelque part sur mon téléphone, mais ça n'a pas d'intérêt, ça ne sera jamais publié. Je m'étais dit, bon, tiens, je vais faire comme quand j'avais fait le Ventoux, mais sur le Ventoux, c'est relativement court.
Oui.
Et puis, il y a un effort intense. Alors que là, c'est difficile à décrire en audio sur le vif, parce que sur le vif, il se passe rien.
Il se passe rien. Ouais, non, mais c'est ça.
Ok, je suis sur la route, j'en peux plus, je fais une pause. Ok, mais je sais pas où je suis. Ok.
On se bat les couilles.
Voilà. Donc voilà, mais je suis très content de l'avoir fait. Si j'ai l'occasion d'aller arbitrer dans des distances équivalentes, je recommencerai
Allez, la prochaine fois, je le fais à Lille. Non.
Alors, avec un jour, ça va être chaud quand même.
Ouais, c'est le jour, ouais.
Alors Lille, c'est peut-être prévu, mais ça va.
T'as déjà fait Paris.
Oui, j'ai déjà fait Paris, mais.
C'était en 6 jours, Paris.
J'avais fait en 7 jours, oui.
6, 7.
Mais j'étais avec.
Oui,
mon fils.
T'étais pas tout seul, voilà. C'était un peu plus.
Ouais. J'avais cool. Le challenge d'avoir le gamin avec moi.
Ouais. Et du coup, t'es arrivé à 23h.
Et je suis arrivé à 23h, j'étais rincé.
Je me doute.
Mais j'étais vivant.
Et le retour en train.
Et le retour en train, oui. De toute façon. Après une journée d'arbitrage,
oui, je me doute, oui.
La veille de 200 km la veille, et devoir bosser le lendemain matin,
Ah, il n'y a même pas un petit RTT, rien.
Eh ben non, et puis là, tu sais, moi j'ai pas beaucoup de RTT en rab, de congés en rab.
Oui, non, mais bon, ça valait peut-être le coup de se prendre.
Ça aurait fait du bien, petite mais journée. Là c'était. Off,
pour aller pédaler tranquille. Sans
J'aurais aimé, mais le problème c'est que là où je bosse, ils ferment pendant l'été, ils ferment à Noël.
Ouais, d'accord.
Et donc, on en est mes anticipés, ils sont tous passés là, et ouais. mes RTT, ils sont tous passés là. Et tu colles un RTT que t'as voulu te mettre pour autre chose, etc. Et puis t'as plus rien de. Plus rien comme ressource.
Et le Bullitt, il rentre facilement dans un train qui fait Dijon.
Parce que j'avais bien regardé.
T'as pris un moderne avec un train
Chabat. Non, justement, j'ai pris le Paris-Lyon.
Le Paris-Lyon, le Bercy, là.
Ouais.
Qui met 6 heures.
Ouais, 5h30. Ouais. Et donc, qui passe à 18h à Dijon. Et puis là, bon, j'avais le temps de charger et il a mis une demi-heure à redémarrer.
Cool! Parce que c'est la question que je me posais, c'est que moi, mon butcher, il rentre pas dans grand chose en fait en termes de train. Donc,
dans celui-là, il doit pouvoir rentrer.
Dans celui-là, il doit rentrer.
De toute façon, moi, je le rentre dans le wagon handicapé.
Ouais. D'accord.
Parce que là, t'as l'emplacement handicapé où tu peux squatter un peu la place. Et les quelques fois où j'ai eu des voyageurs en fauteuil, il y a toujours eu moyen de s'arranger pour. Pour que lui puisse s'installer
et toi, que tu puisses quand même d'accord.
Et puis au pire du pire, je m'assois sur le plateau.
Ouais.
Et je laisse un siège à côté.
Ok. Ah, c'est surtout les portes moi qui me font parce que du coup dans les vieilles dans les type corail là.
Ouais. En fait faut le monter.
Ouais, ça passe. Mais il faut le
monter.
L'idéal c'est d'être deux. On l'a déjà testé
ouais.
ça.
Ouais.
Tu l'as fait seul, mais...
Je l'ai aussi fait seul avec mon fils installé à l'avant.
Ouais.
Grincheux, un homme de défi.
Ouais.
Voilà, c'était bien intéressant.
Bravo, surtout.
Ouais.
Parce que déjà 200 bornes, bon...
Pour oser faire ça, ouais.
200 bornes en hiver, à moitié de nuit, avec
Pour info, j'en ai plus chié à faire 200 bornes de nuit avec le cargo qu'à faire 300 bornes au printemps dernier, avec Rosita, malgré que j'ai cassé le cadre de Rosita.
Non, mais oui, je pense qu'il y a ça aussi. La prochaine fois, si tu le fais avec un vélo au standard, va-t-on dire,
tu vas voler. Tu auras
moins de... Surtout, je pense que sur la fin, les 40 bornes, tu les toucheras au lieu de faire 6 pauses.
J'espère toujours... il faut que je le fasse. C'est un entraînement parce que je me suis inscrit pour la BTR, mais je suis sur liste d'attente. La BTR 2018, la Band to Ride.
Ah, et ils font quoi comme trajet?
Le plein phare à l'ouest. Partir du phare de je sais plus quoi au nord de Guingamp.
En avant.
Puis aller au phare au fin fond de la Bretagne à Brest.
Mm-hmm.
Puis Locmariaker.
Mm-hmm.
Puis Nantes.
Nantes, pas en Bretagne.
Non, mais j'ai pas dit que c'était que la Bretagne. Le bassin d'Arcachon et Saint-Sébastien.
Toute la côte ouest en fait.
Voilà, les phares de la côte ouest.
Toute la côte.
Sachant que.
Ça fait quoi ça?
Ça fait 1140 km.
Ok.
Itinéraire libre, si tu vas pointer au phare.
Ouais.
Bon, il propose une trace, mais après tu fais ton itinéraire libre.
Ouais.
4 jours et demi.
1100 km, 4 jours et demi.
Ça fait 250 par jour, c'est bon?
Non, c'est pas bon, non. non, c'est pas bon, non.
Ah bah là, il faut effectivement quelque chose de léger et qui envoie du lourd, ouais.
Ça se fait.
Mm-hmm.
Et
Après, c'est pas en hiver.
Non, c'est pas en hiver, c'est au mois de juin.
Ça joue aussi.
Ouais, et le petit truc de pute.
Oh, tu vas tellement prendre du vent dans ta race! Oh là là!
Et le petit truc de pute à la fin. Pour passer à Saint-Sébastien, t'as un col.
Les fumiers.
Il te reste 20 bornes à faire et t'as un collat de bouffée.
Ça, c'est pour dire au revoir.
Voilà,
c'est
vrai, voilà.
Ça. Souffre.
Alors, comme je suis sur liste d'attente, je me suis dit, au départ, ils ont rajouté des places et malgré tout, je suis sur liste d'attente. Mais au départ, je pensais pas pouvoir avoir d'éventuelles places. Bon, il y a 40 personnes avant moi, donc.
D'accord, ouais,
c'est pas sûr que.
À qui on pète des genoux pour que tu puisses y aller.
Mais il y aurait des copains dans l'eau.
Hein. Ouais, ouais. Mais non, par contre, ce que je vais peut-être me faire, c'est sur les mêmes dates, me faire mon ma BTR à moi. Plus simple, peut-être moins
venteux.
Mais il y a des copains derrière ça qui t'ont proposé, il me semble, non? De t'accompagner pour.
Ouais, il y a des, il y en a qui seront peut-être intéressés pour m'accompagner.
Ça serait pas. Je me souviens plus de son bah, peu importe.
Bon. Enfin, bon, ça va dépendre d'abord si je suis pris pour la BTR, j'y vais. Le problème de la BTR, c'est qu'il faut traverser la France pour aller jusqu'à Guingamp avec un vélo. Et que Lyon-Guingamp en train, c'est un peu la merde.
Ouais.
Non, j'ai regardé. Hein.
Oui, non, mais je me doute.
Et au retour, Saint-Sébastien, Lyon,
ouais,
c'est pas mieux.
Ouais.
Donc, si je suis pas pris pour le, enfin si je suis pas, j'ai pas de place pour la BTR, je me fais mon trajet à moi, donc prendre le train jusqu'à Genève, partir de Genève, étape checkpoint à Strasbourg, puis terminer à Lille.
C'est génial quoi, le ça mec fait qui fait ma BTR mais à moi quoi. Ça me fait penser à ma mère qui fait, alors j'ai fait des spaghettis bolo, par contre j'avais plus de pâtes, donc j'ai mis
j'ai des patates.
Ouais. C'est vrai, ça fait un peu les recettes marmitons. Alors, c'est super bon, mais j'ai changé ça, ça et ça. Ouais, en gros, t'as gardé le nom et t'as fait ta recette à toi quoi.
J'ai mis du riz à la place des pâtes, j'ai mis de la crème et des steaks.
Mais bien sûr que si, ma grand-mère a toujours fait comme ça.
Okay. Donc
Genève-Lille quoi.
Genève-Lille par Strasbourg.
C'est aussi long. Donc, en kilométrage.
Ouais. En gros l'idée c'est de suivre la frontière France Suisse Allemagne Luxembourg Belgique.
Ok.
En fait
la ligne Maginot quoi.
Ouais, mais ouais. Pendant que t'as les mecs qui feront le coin inférieur gauche de la France.
Putain, le gars, lui fera le coin.
Lui fera le nord-est.
Exact opposé. Il fait la
quoi.
Maille.
Ouais. Voilà.
Non mais l'idée c'est d'avoir aussi à l'arrivée. Bah, arriver à Lille, où je peux. Alors voilà, j'ai un TGV qui me permet de rentrer jusqu'à Paris, jusqu'à Lyon. Si j'ai la force, je passe une grosse nuit à Lille, profiter pour voir des copains.
Genre
guitare en roue libre. Si j'ai la force, je fais Lille Paris le lendemain.
Oui, ça c'est pas.
C'est de l'optionnel, ça.
C'est de l'optionnel, c'est du bonus. Plus,
c'est du gras.
Et ce qui me permet à ce moment-là de faire Paris-Lyon en TER, ce qui est plus facile
avec
pour transporter
vélo.
Le vélo.
Ouais, ouais. Bon, après, ça va, Lyon, c'est 3 heures.
Oui. Oui, tout à fait, mais ça veut dire qu'il faut que je démonte le vélo, que je l'empacte.
Oui, tu trouves un gros rouleau de cellophane et un roule galette.
Tout à fait.
On a bien Tony et Agathe qui, eux, l'ont fait pour prendre l'avion.
Oui, enfin, ils ont un peu morflé leur vélo, je crois.
Non, du tout.
Non, je sais plus qui c'est qui nous expliquait que c'était plutôt une bonne idée
C'était.
J'ai mangé son nom. Il avait fait l'Amérique du Sud.
Oui. Oui.
Merde. Oh.
Sur un ancien du recycleur. Ouais.
C'était chez toi qu'on avait enregistré.
On avait enregistré chez toi.
Ah, Félix.
Félix, voilà.
Mais Félix, il a pas fait. Il y est encore.
Il y est encore, oui.
D'accord.
Encore. Mais d'ailleurs, Tony et Agathe sont aussi en Amérique du Sud.
Ça y est, ouais, ça y est. Ils sont arrivés. Là, ils ont fait une semaine à Buenos Aires.
Du coup, c'est lui qui nous expliquait qu'en avion, mieux valait du cellophane autour du vélo parce que du coup, ça se retrouvait au-dessus des bagages et que c'était pas trimballé. Ouais. Alors que si tu le mettais dans une boîte dure, ça prenait des choux.
C'était baladé.
C'était contre-intuitif, mais que ça marchait bien.
Ouais. C'était. Et ce que j'ai vu, c'est de ce que Tony a fait, c'est qu'il a dévissé le dérailleur.
Ouais.
Pour le scotcher à la base.
Ouais.
Oui.
Pour éviter qu'il soit en contrainte. Ça, c'est le truc.
Con, ouais.
C'est le truc qui m'a le plus marqué. Je dis, tiens, putain, il a mis un coup de scotch. Et, c'est pas bête en y réfléchissant.
C'est
vraiment
bête, ouais.
Bon.
Voilà. Je crois que cet épisode touche à sa fin.
Exactement.
Ouais. C'était riche.
En effet.
C'était riche.
Ma nouvelle configuration de studio d'enregistrement.
Nickel. C'est royal.
Et pas mal.
Royal au bar. Ouais, non, c'est vrai, c'est le cas de le dire là. C'est en fait, le grincheux, il a un petit meuble à côté de sa table de salon. Il ouvre tout, il tire les câbles, il tire les micros, ploum, ploum.
Le chat pique une bonnette et c'est nickel.
Ouais, ouais. À deux reprises quand même, cette espèce de.
Ouais, non, mais.
De garce.
Ouais. J'étais en train de vérifier que les autres bonnettes qui sont encore dans le sac. Ouais, mais elle est capable d'aller chercher. Hein.
Ouais, non, mais là, c'est le gène du mal, ton chat, on peut plus rien faire.
Musée Cortex.
C'est ça.
Bon, et eh ben, on a souhaité. Pardon, je te coupe.
Oui, ben voilà, j'allais dire pareil. Une bonne nuit, bonne fin de journée, comme.
Une bonne année.
Ah bah oui.
Eh ben, bananier, pomme sautée.
Des vélos, des roues.
Du vent dans le dos.
Ouais, du vent dans le dos.
Toujours
à l'aller et au retour.
Voilà, ce qui n'arrive jamais. Hein.
Non.
On se dit qu'on est en forme.
Bisous vélisienne.
Oui. C'est vache, ça. Voilà.
Des routes sans morceaux de verre.
Exactement.
Bisous bilouk.
Bisous bilouk. Donc, oui, plein de vidéos de Bilou qu'elles sont bien. Et que,
ça s'appelle l'instant bâtard. On balance toutes les saloperies qu'ont les copains. Voilà.
Et c'est là qu'on se prend une saloperie qu'on crève en rentrant.
Combien?
Et je te rappelle que toi.
Moi je rentre avec le cyclodoc, je risque rien.
J'ai pas les mâles. Hein.
Ah merde!
J'ai pas le matos.
C'est pareil, je suis parti tout nu. Moi j'ai que dalle.
Franchement, je crève, je l'attache,
je reviens demain. Là.
Ouais, c'est un peu pareil pour moi. Bon, et eh ben écoutez, à bientôt. Merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez toujours nous retrouver sur Facebook, sur Twitter.
Sur Twitter, Cyclocast.
Grincheux, Proculus.
Mogor.
Crazy Warthog, on ne sait jamais comment il faut l'écrire.
Ah, mais c'est pas grave, ça. Moi non plus.
Attention, scoop. Crazy a tweeté aujourd'hui.
J'ai tweeté aujourd'hui? Non, j'ai retweeté aujourd'hui.
T'as répondu en
tout cas. Ouais, j'ai retweeté. Tweeter, c'est quand même rare. Hein. Faut vraiment que je me fasse chier au bureau pour. Non, patron, écoute, c'est vraiment que je suis aux toilettes et que j'ai que ça à foutre.
Allez. Voilà. Et ben, prochain enregistrement quand on aura réussi à caler une date, parce que là,
ça va être dur.
Ouais.
On vieillit, on a plein de responsabilités, tout ça. Ouais.
Heureusement qu'on fait du vélo, les gars.
Eh oui.
Allez.
Et bien à bientôt.
La Merci bise. À tous.
Salut.
Salut.
Du vélo, fais du vélo, tu vas te faufiler partout et doubler toutes les autos. Fais du vélo, fais du vélo, tu n'auras plus, non jamais, plus jamais les nerfs à fleur de peau. Fais du vélo, tu iras plus vite et tu seras heureux comme un poisson dans l'eau. Fais du vélo, tu n'auras plus jamais de moral à zéro. C'est le seul moyen de se refaire une santé. Un peu de courage, allez, allez, faut pédaler. Prends ta bicyclette et tu seras toujours à l'heure. Baisse la tête et t'auras l'air d'un coureur. Fais du vélo, tu vas te faufiler partout et doubler toutes les autos. Fais du vélo, tu n'auras plus, non jamais, plus jamais les nerfs à fleur de peau. Fais du vélo, tu iras plus vite et tu seras heureux comme un poisson dans l'eau. Fais du vélo, tu n'auras plus jamais le moral à zéro. Toi, contrairement à tous les géants de la route, tu prendras le temps de boire et de casser la croûte. Tu vas pédaler tranquillement, toujours pépère, et découvrir les joies de la vie au grand air. Fais du vélo, tu vas te faufiler partout et doubler toutes les autos. Fais du vélo, tu n'auras plus, non jamais, plus jamais les nerfs à fleur de peau. Fais du vélo, tu iras plus vite et tu seras heureux comme un poisson dans l'eau. Fais du vélo, tu n'auras plus jamais le moral à zéro. Fais du vélo, tu n'auras plus jamais le moral à zéro.